Donc je précise au nouveau que mon seul luxe, c'est le silence. Oui. Mais un silence assez radical. Bon, voilà. Ben, voilà. Premièrement. Et deuxièmement, vous inquiétez pas si j'envoie un peu des exocètes à droite ou à gauche. Ça fait partie du genre littéraire. Ça convient pas à tout le monde, mais moi, c'est difficile de faire autrement. Mais c'est pas que j'attaque les personnes, mais j'attaque leurs idées. C'est mon métier. Hein. Alors voilà, on est dans l'apologétique. Hein. Donc cette année, c'est l'Église. Est-ce que l'Église catholique est crédible? Hein, donc on progresse, on a vu un certain nombre de choses. Et la dernière fois, on a vu que le Christ a fondé une Église visible et hiérarchique. Ça, c'est très important. Ben, c'est un premier pas contre un certain nombre de rationalistes ou contre des libéraux ou contre des gens un peu bizarres. Le Christ a vraiment fondé un groupe qui est une société. Le royaume des cieux, bien sûr, dépasse cette société, puisque c'est la vie de Dieu dans notre âme. Ça sera aussi la vie de notre âme dans le ciel. Mais entre la mort du Christ sur la croix et puis sa parousie, son retour, il y a une société hiérarchique qui l'a fondée. Alors ça, on considère que c'est acquis. Et maintenant, on va regarder si dans cette église qu'il a fondée, donc sur les apôtres, on avait montré avec des textes. Normalement, vous voyez, une lecture de l'Évangile, objective, fait arriver aux conclusions que je vous donne. Mais le problème est de la faire objective, parce qu'il y a plein de passions qui se mêlent. On a envie, ou certains ont envie, que ça ne soit pas comme ça. Certains protestants ne veulent pas qu'il y ait une église hiérarchique. Et aujourd'hui, certains dissidents orientaux ne veulent pas que dans cette église hiérarchique, qu'il y en ait un qui est le primat, qui est Pierre et ses successeurs. Donc, il y a la passion qui se mêle, parce que l'enjeu est considérable. Et c'est pour ça que c'est difficile de rectifier l'esprit dans cette recherche, mais c'est une recherche qui est normalement fondée sur la raison et uniquement sur la raison. Alors, on va essayer de voir ça ce soir, et on va s'appuyer donc sur l'Évangile. On va voir que le Christ a vraiment promis et donné le primat à Pierre d'une façon directe et immédiate. Hein. Parce que certains admettent que, bon, il y a un groupe, vous voyez. Et puis dans ce groupe, il y a les apôtres qui sont plus importants que les autres. Et puis ils s'organisent et ils disent, ben, c'est commode qu'il y en ait un qui préside, ou etc. À la limite, ils élisent leur président. Mais c'est pas ce que la constitution de l'Église. C'est très particulier. La constitution de l'Église est tout à fait, les techniciens disent sui juris, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comparable à autre chose. C'est à la fois une monarchie, parce que bon, le successeur de Pierre a un primat, et en même temps, c'est une monarchie qui est tout à fait spécifique, parce que dans chaque diocèse, les successeurs des évêques sont vraiment les vicaires du Christ. Et ils ont un rôle important dans leur diocèse, et un rôle pour toute l'Église lorsqu'ils sont réunis en concile à l'appel du premier d'entre eux. Donc c'est une chose qui est comparable à rien du tout. Et c'est assez difficile de faire des parallèles, parce que les passions politiques ou les schémas politiques se mêlent un peu. Mais bon, on va essayer d'expliquer un peu ce qu'il en est. Alors d'abord, la promesse du primat, ça c'est le plus important, avec un texte fameux, qui est un texte dans saint Matthieu, hein, la confession de Césarée. Et puis ensuite, on réfléchira un peu sur la nature de ce primat, c'est qu'est-ce qui est contenu dans cette primature qui est donnée à Pierre. Et puis on regardera s'il est perpétuel, ce qui est un élément aussi très très, très important. Alors le texte fondamental, c'est Matthieu 16, 18, 19. Donc c'est un texte très connu, mais très important. On est à un moment clé de la vie de Jésus. Il a fait une prédication qui a eu un certain succès, parce qu'elle était surprenante par rapport à ce que faisaient les rabbis de son époque, tout en étant pleinement judaïque, pleinement dans la ligne des prophètes. Mais à un moment donné, il s'est engagé de plus en plus, il a montré qu'il fallait se renoncer, qu'il fallait passer par un ordre sacramentel assez curieux, comportant quelque chose qu'on devinait être l'Eucharistie. Et après le fameux discours du pain de vie, il y a beaucoup de gens qui l'ont quitté, même dans ses disciples. À ce moment-là, il s'est tourné vers ses apôtres, il a dit, est-ce que vous aussi vous allez partir? Et Pierre lui a répondu, non, à qui irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et donc, à ce moment-là, il y a une spécialisation un peu de l'apostolat du Christ. C'est très curieux. Au début, ça marche très bien, il y a des foules, il y a des JMJ terribles, etc. Et il y a du monde qui le suit. Et puis là, les gens sont quand même secoués. Parce que il faut vous dire que les Juifs attendaient quand même, pour beaucoup d'entre eux, une victoire assez rapide sur l'hellénisme qui dominait le monde et sur la domination politique romaine. Et puis l'expulsion des pourris hein, en particulier d'une caste sacerdotale très compromise avec l'occupant. Et donc, voilà. Et, mais en fait, ils se sont rendus compte, donc ils étaient prêts à faire le coup de force, et c'était pas ce que proposait le Christ. Alors le Christ les prend à part et monte jusqu'au Liban, enfin ce côté dans ces pays-là, il va jusqu'à Saïda, Sidon, bon, il monte, il fait un tour en Syrophénicie, puis il revient par la Décapole, qui est un endroit où la politique des Hellènes et des Romains avait fait beaucoup de villes autonomes, donc il y avait une grande influence grecque dans ces régions-là, qui va marquer aussi un peu la Galilée, ce qui explique la position un peu particulière de la Galilée par rapport... Les Judéens, c'était les super intégristes bornés, si vous voulez, ils étaient autour de Jérusalem, c'est un pays sec, c'est un pays un peu dur et tout. Là-bas, on était beaucoup plus au contact du mouvement des idées et de l'influence à la fois... enfin, de différentes influences, dont celle des Hellènes, mais aussi celle des royaumes arabes, etc. Donc c'était des gens assez riches au point de vue intellectuel, hein, c'est... Pas se représenter tout ça comme des primitifs absolus. Alors Jésus les prend, fait tout son tour, spécialise son enseignement, les conduit, c'est très intéressant dans sa pédagogie, hein, c'est vraiment un grand maître Jésus. Et puis, évidemment, il leur pose la question de confiance. D'abord, il dit, mais qu'est-ce que. Il demande comment il est perçu par le. Il fait son petit sondage, il faut, là. Comment est-ce que. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et alors, il y a la récitation des réponses qui sont quasiment canoniques, hein, parce qu'elles canoniques, c'est qu'elles sortent de la tradition judéenne. Hein. Bon, ben, est-ce que certains disent que vous êtes Jean le Baptiste, parce que Jean a fait beaucoup de bruit. Bon, il a été décapité, mais certains disent qu'il est ressuscité, etc. Et puis Jean, c'était vraiment le prophète qu'on attendait, il n'avait pas eu de prophète pendant 200 ans. Vous êtes Jean, d'autres disent que c'est Élie, parce que dans la tradition juive, et même chez les pères de l'Église, Élie va revenir avant le Messie, les précurseurs du Messie. Oui. Alors Jésus expliquera pour lui, Élie, le précurseur, c'est Jean-Baptiste. Hein. Mais enfin, les pères pensent qu'il viendra quand même à la parousie. Alors, est-ce que vous êtes Élie ou bien un prophète, etc. Donc, les gens se trompent, ils disent que c'est quelqu'un d'élevé, mais ils ne saisissent pas son mystère. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très curieux. C'est que Jésus se tourne vers eux et il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Vous, les apôtres, je vous ai formés depuis un an et demi, deux ans, là. Donc, ils étaient un peu bornés, mais enfin, quand même, ça commençait à rentrer. Et tout va s'éclairer après la résurrection. Parce que la résurrection, c'est vraiment la réalisation d'Isaïe 52-53, et ils comprendront qu'il fallait qu'ils soient humiliés pour être exaltés. Mais enfin, tout ça, ils enregistrent. C'est une très bonne mémoire. En plus, on est procédé mnémotechnique absolument fabuleux, et on s'aperçoit que, en fait, l'évangile, c'est une tradition récitative, doctrinale, mais récitative, donc il n'y a pas moyen de tricher, quoi. Hein, c'est comme autrefois, quand on apprenait les poésies par cœur, et s'il y avait une erreur, toc, on le voit tout de suite. Peut-être dans la prose, on peut faire semblant d'avoir retenu tout, quoi. Donc, et vous, qui êtes-vous que je suis? Et à ce moment-là, il y a un phénomène très curieux, c'est que Pierre a une révélation. C'est Jésus lui dira. Donc ça, c'est très important pour l'exégèse de ce texte qui est fondamental pour le christianisme et le catholicisme. Hein. Si ce texte est inauthentique ou s'il est mal interprété, l'église catholique n'est pas la bonne. Quoi. En notre sujet, c'est le catholicisme est-il crédible? Alors donc, Pierre s'avance, c'est Pierre qui parle le premier, ce qui indique que déjà, il était un peu plus gonflé que les autres. Enfin, ce n'est pas une bonne question de tempérament. On va voir qu'il avait... Il avait conscience d'avoir un rôle à part. D'ailleurs, Jésus l'avait favorisé. Bon. Mais il s'avance et il répond. Hein. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, on voit des réponses parallèles dans les synoptiques, un peu moins complètes, enfin, qui ont le même sens. Le Fils du Dieu vivant, c'est très fort. Hein. Bon. Et alors, à ce moment-là, après cette fameuse confession de Césarée, puisque ça s'est passé à côté de Césarée, d'une ville qui s'appelle Césarée, là-haut, Jésus lui dit, il certifie qu'il a raison. Et que non seulement il a raison, mais que c'est suprarationnel. Vous voyez, c'est très important la réponse de Jésus. Et en plus, quand vous lisez sa phrase, vous vous rendez compte que ça n'a pas pu être cogité par des Grecs ou par des Romains, hein, formés aux écoles des rhéteurs, et ne parlant pas l'araméen, ni l'hébreu, ni l'arabe, ni rien. Enfin, l'arabe primitif, ou... c'est des langues sémites. C'est bourré de sémitisme. Tu es heureux, tu es bien heureux. C'est un sémitisme pur, ça. Simon Bariona, un tel fils, des chites, c'est les arabes, il y a un tel ben. Quand vous avez le mat dans les textes canoniques qui complètent le Coran, dans les textes des hadiths, vous avez le texte de ce qu'aurait dit le prophète, il dit c'est dit par un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, ou ça, ou qu'il tient d'un tel. Il y a la généalogie qui est marquée, généalogie physique ou morale, mais qui est marquée, c'est très important pour les sémites. Tu es bienheureux, un tel, fils d'un tel. Bon, Simon, donc il appelle par son nom d'avant, alors qu'il a déjà changé de nom. Hein. C'est aussi une chose très importante. C'est Simon, fils de Jean, parce que n'est pas la chair et le sang, ça c'est un sémitisme, qu'est-ce que vous voulez qu'un Romain formé à Virgile dise la chair et le sang. Hein, si vous faites traduire ça par un logiciel automatique, ça va être la viande et je sais pas quoi. Et... C'est pour ça que c'est sympathique de voir que les logiciels ne marchent pas. Quoi. Ça montre que l'homme reste un peu là. Faites traduire l'évangile de Saint Jean par un logiciel et vous rigolez après. Bon, et donc c'est un sémitisme pur. C'est pas, ça veut dire la nature laisse assez fort. Hein? Ils sont nés, non pas de la chair et du sang, dans le début de l'évangile de Saint Jean, qu'on lit à la fin de la messe dans la forme dite extraordinaire. Hein? C'est-à-dire que c'est pas la force naturelle qui peut l'amener à ça. C'est pas une conquête rationnelle. Hein? Mais c'est mon père qui est dans les cieux. Ça encore, c'est un sémitisme. Vous voyez, même si on appelle Jupiter le père chez Virgile ou ailleurs, ou chez les Grecs aussi, on a plus bien face dans un sens très très dérivé. Hein. C'est pas mon père qui est dans les cieux. Et puis, voilà, donc ça c'est tout à fait des sémitismes. Donc il lui dit, ce que tu dis, tu l'as dit, c'est vraiment, tu as une foi, un signe, qui est l'effet d'une révélation de mon père. Et alors après, il y a la phrase fondamentale, et moi je te dis. Et quand Jésus parle comme ça, ça veut dire qu'il souligne la gravité de ses paroles. Souvent il dit, amen, amen, en vérité, je vous dis, moi je te dis, à toi, vous verrez que tout est direct, hein. Si vous lisez le texte dans ceux qui savent un peu le grec ou autre, pour vous lire le texte ou vraiment les deux colonnes et voir, c'est vraiment, il s'adresse à Pierre. Hein. C'est très important, ça. C'est pas, il y a le groupe et tu as été délégué, donc je te remets là une motion pour. Non, c'est tu es Pierre. Hein. Mais Pierre, c'est un nom qu'il lui a donné, Jésus, hein, spécial. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon, on va voir le sens exact de ces paroles. Et c'est un des rares cas où dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile plutôt, vous avez le mot Église. D'habitude, c'est Royaume des Cieux, c'est autre chose, et c'est plutôt les épîtres de Saint Paul, les Actes qui parlent de l'Église. Je bâtirai mon Église. Bon, mon Église à moi, c'est celle du Christ. Hein. Et les portes de l'enfer, voilà encore un sémitisme, qui n'a aucun sens dans la civilisation hellénique. Les portes, ça signifie la puissance. Vous voyez, c'est le symbole, c'était là où il y avait les portes particulièrement fortifiées. Quand on avait les portes, on avait la ville. Et d'ailleurs, à côté des portes, il y avait une place où il y avait le Sanhédrin, si vous voulez, enfin, les vieillards qui discutaient, comme en Corse ou en Grèce, vous avez une place où il y avait les vieux, ou les pas vieux, qui boivent ouzo metanero prio, là, un bon coup, ou le pastis, je ne sais pas où on est, et on discute. Et ça, dans le midi, il faut des places pour ne rien foutre, là, ou pour sortir les paroles de sagesse. Quoi. Chez les Grecs, c'est la morale, ça. Donc, alors, les portes de l'enfer, ça veut dire les puissances de l'enfer, la vertu de l'enfer, ça conquête. Hein. Ne prévenons pas contre cette église. Donc, c'est extrêmement fort. Hein. Tout va bien? Ça roule? Bon. Alors, les portes de l'enfer ne prévenons pas contre elles. Bon, donc, c'est fort. Cette église ne sera jamais renversée par l'enfer. Donc, par quoi sera-t-elle renversée? C'est-à-dire, si vous lisez ça objectivement, ça veut dire ça tient, quoi. Être chrétien, ça tient. C'était le titre d'un truc d'apologétique chacha, je sais pas. Être chrétien, ça tient. Voilà, alors ne prenons pas contre elle. Bon, l'église catholique tiendra. Même si elle est un peu abîmée, elle tiendra. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors, ça, c'est pur sémitisme. On va voir, Lagrange l'a très bien interprété. Les clés, c'est un grand truc. Enfin, c'était quelque chose de très important. La clé d'une ville, c'était grand comme ça. Après, ça se portait sur l'épaule. Enfin, bon. Les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire que tu vas vraiment être celui qui a tout pour. Qui va rentrer, qui va sortir, qui va faire ce qu'il veut. Entrer et sortir, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Il entre et il sort. Voilà, bon. Hein, donc tu auras les clés du royaume des cieux, ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Et ce que tu feras sur la terre sera fait dans le ciel. C'est-à-dire ce que tu décideras sera ratifié par Dieu. Dans les cieux, c'est un sémitisme pour dire Dieu, par Dieu. Hein. Voilà. Donc ce passage extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la promesse du primat. Alors on a discuté, évidemment, comme c'est un texte un peu fort. C'est très impressionnant de voir. J'aimerais bien qu'on soumette le Coran au traitement qu'on a fait subir au Nouveau Testament. Parce que je me pose vraiment la question de savoir ce qui va rester. Il y a peu de gens qui font une approche historique du Coran. D'habitude, on dira c'est un beau texte, comparaison, les voix, machin. Mais c'est intéressant de faire une approche historique. C'est plus difficile, mais c'est très intéressant. Bah, les gens qui ont fait une approche historique de l'Évangile, ben, l'Évangile s'en est sorti. L'Évangile est sorti vivant de 150 ans de rationalistes, de modernistes et autres cinglés mythologiques, ou etc. 200 ans, disons. Il est resté, il est toujours là, on peut le lire. Il y a des tas de gens normaux, même avec des tas de diplômes, connaissant, parlant l'hébreu aussi bien que l'espagnol, et même mieux, etc. Ou l'araméen, qui disent, la position catholique, ça tient. Alors on verra ce qu'il en sera dans 50 ans, quand on aura réussi à faire la même chose. Sur les originaux qu'on n'a pas d'ailleurs, c'est inaccessible du coup. Bon. Enfin, j'ai dit quelques méchancetés au passage pour pour que vous évitiez de vous endormir. Bon. Alors, donc, est-ce que c'est authentique? Alors, on a dit, mais c'est des trucs. Non, c'est un gars qui s'est interpolé. Alors, interpolé, c'est le grand mot des modernistes. Quand il y a un truc là-bas, c'est interpolé. Alors, Saint-Pédis, dans son musique, il dit, si on les écoute, il va rester la première couverture, la dernière page. Quoi. À chaque fois, ah ben non, ben là, c'est un mec qui a. C'est un gars au 2e siècle, un successeur de l'évêque de Rome, qui a dit, ben, on met ça parce qu'il fait un faux, quoi. Notre église est fondée sur une bande de faussaires. D'après les modernistes, c'est ça. Hein. Bon, alors ça va pas, c'est pas interpolé. Parce que ces versets 18 et 19 sont présents dans tous les manuscrits et dans toutes les versions anciennes. Absolument toutes. Et on en a un paquet. Hein. Vous avez parlé des papiers, des papyries, etc., des codex, on en a un paquet absolument fantastique. Et dès le début, parce qu'un texte, il a une histoire. Un texte, il est lu par d'autres gars qui dit, tiens, j'ai pris des notes, voilà ce que j'ai vu dedans. Vous voyez, c'est permis qu'il faudra reconstituer des textes disparus. Et à tous les textes anciens,
je ne sais pas ce que j'ai mis sur le tout petit résumé, donc je ne vous ai pas donné j'ai pas eu la place de tout mettre.
L'évangile aux Hébreux, qui est un apocryphe de l'an 100 à peu près, deux textes qui ne sont pas apocryphes, mais qui sont des textes spirituels très anciens, les Odes de Salomon et le Pasteur d'Hermas, qui datent à peu près de 150, et les textes de Saint Justin, qui sont de la même époque, citent textuellement ces choses-là. Ensuite, Saint-Irénée en 180. N'oubliez pas que Saint-Irénée, donc, c'était la tradition de... Enfin, il était en contact avec la tradition de l'église d'Antioche. Et à deux générations près, alors surtout avec la mémorisation qu'ils avaient, il avait les paroles mêmes. Enfin, vous voyez, Saint-Irénée, il avait pris les choses vraiment à leur source. Bon, Tertullien en l'an 200 et Origène en 230 le cite. Donc, c'est absolument impossible de dire que ça a été interpolé. D'autant plus que si c'était interpolé, c'est un génie qui parlait parfaitement l'araméen. Hein. Et qui en plus avait fait une marche arrière prodigieuse. Et il y a de la place là, Mohamed. C'est là.
Deux places.
Désolé. Il y a un petit résumé là pour Mohamed. Donc voilà, donc ça peut pas être. C'est un caractère très sémitique. Donc c'est pas interpolé, c'est-à-dire qu'on n'a pas, ça enlève toute probabilité parce qu'on a dit c'est l'église romaine qui au 2e siècle a bidonné ça. Hein. C'est impossible, c'est absolument impossible. Attention. Bon, donc c'est quelque chose qui est authentique. Et si on se reporte maintenant à ce qu'on avait dit au troisième café caté sur l'apologétique, hein, les évangiles sont historiques. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Je le rappelle rapidement ici. La critique rationnelle, avec la raison, qui n'est pas le rationalisme. Le rationalisme, c'est une raison châtrée, si vous voulez. Une raison qui décide qu'il n'existe aucun être au-delà de ce que l'homme atteint. Qui, métaphysiquement, c'est impressionnant. Hein. Je crois que même scientifiquement, c'est vraiment le moyen de ne jamais rien trouver. Si on décide qu'il n'existe rien au-delà de ce que les systèmes actuels peuvent représenter, ben, on arrête. On va faire de la planche à voile ou du ski en fonction des saisons ou du karaté ou de la boxe française. On arrête, quoi. Parce qu'on ne trouvera rien. Il n'y a aucune question. Ouais, donc, la raison, et c'est, Jean-Paul II insiste là-dessus dans l'encyclique Fides et Ratio, hein, c'est ça, foi et raison. On va prendre ça comme titre d'une petite université d'été qu'on va reprendre, un petit système d'université d'été chez nous, à Chemouet, fin août. Ça s'appellera session foi et raison. Et parce que c'est très important. Et donc, Jean-Paul II insiste en disant, mais écoutez, une raison, et Benoît XVI cite ça souvent aussi, une raison qui décide, une raison humaine, qui décide qu'il n'y a rien au-delà de ce qu'elle peut atteindre, c'est une raison qui se prétend divine. Parce que précisément, il n'y a que Dieu, il n'y a rien au-delà de ce que Dieu peut penser, évidemment. Donc, on n'est pas dans le rationalisme, on est dans la raison. Bien, si on utilise cette raison, on voit que les évangiles sont des témoignages historiques. Alors ça, c'est importantissime, hein. Et bon, je ne rappellerai pas toutes les preuves, mais je rappelle simplement deux indices très importants. La date des manuscrits. Nous avons l'intégralité des évangiles, hein, manuscrits intégraux du Nouveau Testament, 300 ans, donc le Sinaiticus et le Vaticanus, 300 ans après la fin de leur rédaction. Enfin, après la fin des événements, pardon. Et certains fragments en 30 ans. Certains fragments, chapitre, je ne sais pas combien, 14 ou 17 de Saint Jean, datent de 30 ans après la rédaction. Or, les fragments, les manuscrits que nous avons de Virgile, j'ai noté ça ici, c'est 800 ans après la rédaction. Et Homère, 1800 ans. Il n'y a pas de gars qui disent que Virgile n'existe pas, ou bien Homère n'a... Bon. Et alors, il n'y a pas que ça, il y a un autre élément aussi, c'est les variantes. Vous voyez, si vous calculez toutes les variantes du texte, sur les 150 000 mots du Nouveau Testament, il y a 150 mots qui est une variante qui a du sens, qui a une importance, pas des trucs, des typographies, si vous voulez. Hein. Vous avez 150 mots sur 150 000 qui sont discutés. Ça fait 1 pour 1000, et on est très loin au-dessus de tous les manuscrits de l'Antiquité profane, sur lesquels est fondée toute notre science historique. Alors, soit on dit qu'il n'y a pas de science historique, soit on dit que les évangiles sont historiques. Parce qu'en plus, on a vu ce qu'il en était des témoins. Bon, donc si on admet que les évangiles sont historiques, hein, avec un autre argument que je vous ai mis ici dans le texte, c'est que même si maintenant on sait, enfin, les gens qui bossent, quoi, savent qu'ils ont été écrits très vite. En tout cas, pour saint Matthieu, bien avant la chute de Jérusalem, etc. On a montré, contrairement à la pensée des gens qui racontaient ces affabulations de l'an 110 ou 120 et tout, que pratiquement, certains ont été écrits avant la chute de Jérusalem, et au plus tard, c'est 90 ou 100. Bon. Et bien donc, on est très près des événements. Mais même si on retarde cette date, l'Église primitive n'est pas un ensemble de charismatiques qui font Yukaidi, Yukaida, et qui réagissent en fonction de trucs mythiques, de ce qui leur plaît. C'est un truc extrêmement structuré, ça on insistera la prochaine fois sur l'Église catholique romaine est-elle la véritable Église du Christ, notre troisième conférence décisive. Bon. La prochaine fois, c'est la conférence décisive. Eh bien, on montrera historiquement que c'est comme ça. Mais c'est une Église hiérarchiquement structurée sur des évêques qui sont chargés de vérifier qu'on répète les choses mot à mot, même quand c'est contre eux. Par exemple, dans tous les évangiles, vous avez la trahison dans les évangiles, vous avez la trahison de Pierre, vous avez le fait que le 12e choisi par le Christ, c'est Judas, c'est rapporté, et plein de trucs qui sont difficiles et que si on voulait faciliter les choses, on n'est pas vrai. Bon. Pourquoi ? Parce que c'est un groupe structuré avec des chefs, hein, les apôtres, et leurs successeurs qu'ils ont établis, les épiscopes, les diacres, et tout ça est précisé dès les évangiles, les épîtres pastorales de Saint-Pierre. Ça, maintenant, on est certain historiquement de cette affaire-là. Ça a été démontré, c'est très important. Parce qu'on nous dit, oui, en fait, le christianisme, c'est une fois post-pascale, il y a des mecs bon, qui sont réunis vers l'encens, qui ont dit, tiens, ben, si qu'on dirait que Jésus a ressuscité. Il y a une lumière qui est passée sous la porte, là. Je vous ai lu le texte de quand on l'a pas lu, on peut pas croire que ça existe. Un Renan, vous avez lu le texte de Renan. Renan a entendu une porte claquer, il dit, ouais, ça y est, les mecs ont dit, ah, c'est la résurrection. Une porte claque. Tout le monde sait qu'en Orient, à 3h, quand une porte claque, on va dire, c'est la résurrection. Mais je vous ai lu le texte, c'est hallucinant. C'est un type, il était, je sais pas, académicien ou au Collège de France. Hein. Donc ça montre vraiment qu'ils sont complètement hallucinés. C'est impensable qu'une foi post-pascale n'ait aucun fondement dans le Jésus-Christ historique. Alors ça, Benoît XVI, dans son premier tome de son livre, l'a bien montré, quoi. Évidemment, après la résurrection, on a compris. Mais on a compris ce qu'on savait déjà, sinon on aurait pu comprendre quoi. Bon, donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de très structuré, et qui est structuré pour transmettre les paroles et les faits de Jésus. Hein, l'aspect narratif de l'évangile est extrêmement important. C'est qu'on récite les choses. On dit, voilà, les béatitudes, c'est récité, le tel et tel. Alors, quelquefois, les discours sont un peu groupés, ça peut dire qu'il a tout dit en même temps. Mais c'est des textes, alors il y a des sources communes, on étudie tout ça, mais c'est des choses qui sont récitées. Si un gars qui bidouille là-dedans, il y en a 10 qui crient. Parce que les gens savent tout par cœur, ils disent, attends, t'as faux, t'as tout faux, ouais, moi j'ai tout bon. Donc ça marche pas, voilà. Alors, si on admet l'historicité générale des évangiles, eh bien, si les versets, ici, 18 et 19, comme on l'a dit, sont authentiques, eh bien, il faut en conclure qu'ils sont également historiques. Parce que le principe est assez simple, vous avez l'historicité générale des évangiles. Les évangiles racontent une histoire vraie. Soit s'ils ne racontent pas une histoire vraie, il faut juste arrêter, on va jouer au billard français, on va faire autre chose, hein. De l'astrophysique, je ne sais pas quoi, ou calculer les probabilités, ou gagner du fric, ou foutre des bombes pour s'occuper en attendant que, parce que la vie est un peu triste. Bon, mais l'évangile est historique. Puis il y a des tas de crétins et de chrétiens crétins qui disent, ah ben non, ce qu'on veut, c'est... Oui, enfin ce qui compte c'est la foi. Mais attends, bien sûr, la foi. Mais ma foi est fondée sur une histoire. S'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de foi. Ou alors t'es fou. D'ailleurs, pas mal d'agnostiques, enfin moi, d'après mes souvenirs d'agnostiques, considèrent qu'un certain nombre de catholiques sont barjots, quoi. Enfin, c'est des fidéistes, quoi. Ils ont une foi, et ils s'en foutent qu'il y ait les fondements rationnels de leur foi. C'est des comiques, quoi. Excusez-moi, mais bon. Si c'est comme ça, c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une foi, bien sûr, qui est surnaturelle, mais il y a un fondement historique. Sinon, dégager les chrétiens au lion, quoi. C'est des mecs dangereux, ce qu'ils racontent. La croix, la rédemption, un homme qui se cache sous les espèces du pain, etc. Attendez, c'est des fouillés, ces mecs-là. Donc, si on n'a pas des arguments rationnels, eh ben, c'est très dangereux. Donc, il y a une historicité générale des évangiles, et s'il y a donc des versets qui sont authentiques, eh bien, il faut reconnaître comme historique ce qui est présenté comme tel dans l'Écriture. Or, tout le contexte de la confession de Césarée nous parle d'un événement historique. C'est pas ils se sont réunis après coup pour faire un débriefing en ayant le moral à zéro parce qu'ils avaient pris une veste du côté des Sadducéens ou des pharisiens. Donc ils se disent, tiens, comment on va faire pour remonter les actions du groupe, on va repêcher, on va... Non, c'est pas du tout ça. Justement, ils étaient dans une situation d'enseignement constant par Jésus. Toutes les circonstances sont rappelées à tel endroit, on sait à peu près où ça s'est passé. Telle parole, donc c'est historique. Donc ça, c'est un point très important. Alors maintenant, on a donc... mis ça en place. Alors, on peut appuyer maintenant, on a ce passage qui est historique. Jésus a dit ça. C'est ni une interpolation, ni une idéalisation, ou que ce soit. Jésus a dit ces paroles, puisque l'Évangile nous dit qu'il l'a dit. Voilà. Alors maintenant, on peut appuyer ça et comprendre mieux en regardant ce qui se passe dans l'ensemble du Nouveau Testament. Ici, on va le voir. Jésus donne vraiment un pouvoir de gouvernement à Saint-Pierre et à ses successeurs, parce que c'est définitif. Mais il y a un background, il y a quelque chose autour qui est très important. Pierre n'est pas un lambda dans le groupe. Pierre est le protos, il est le premier. Et dès le début, on s'en aperçoit. Il a donc, si on regarde l'ensemble du Nouveau Testament, on s'aperçoit que Jésus a une primauté, qui a donné une primauté générale à Saint-Pierre, et on a des indices que cette primauté est vraiment un pouvoir de gouvernement, une supériorité de gouvernement, et pas simplement, si vous voulez, une primauté d'honneur, comme le doyen des chanoines, dans un chapitre, il a une primauté, mais il n'a pas de gouvernement. Ou le président du Sénat, il anime les débats, mais il n'a pas un pouvoir spécifique, si vous voulez, sauf les choses qui lui sont concédées par le règlement, vous voyez. Donc il faut bien distinguer, est-ce que Jésus a donné à Pierre une primauté de juridiction, pas simplement d'honneur, comme le reconnaissent certains orientaux dissidents, ou de direction pour animer le groupe. Et la réponse, c'est oui. Et elle est rendue très probable par le fait que tout le Nouveau Testament est rempli de la personne de Pierre. C'est très intéressant. Qui est un homme un peu brouillon, un peu agité, énergique. C'est un chef d'entreprise, Pierre. Je ne sais pas quel est son capital, là. Je ne sais pas combien il pèse, comme disait Thibault tout à l'heure. Mais il pèse un certain nombre de drachmes. Il y a une entreprise avec plusieurs barques et plusieurs hommes, etc. Dans un endroit poissonneux. C'est quand même pas rien. Puis il a le sens concret aussi. Alors il est un peu fonceur, il est gaffeur, il se surestime un petit peu, c'est vrai, mais il est éminemment sympathique. On le voit, parce qu'il fait des bêtises, mais il la reconnaît assez bien. Alors, Jésus met Pierre en avant par rapport aux autres. Ça, c'est très frappant. D'abord, il lui impose le nom particulier, un surnom, à Simon, fils de Jonas. Et à lui seul, il lui impose un nom particulier qui va annoncer, quand on étudie les textes, on s'aperçoit que, tel que c'est raconté par Saint Jean, on voit que, dès le premier appel de Pierre et André, Jésus va, tu t'appelleras, lui annonce qu'il va changer de nom, tu t'appelles Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Ensuite, quand il appelle tout le groupe des 12, il lui donne officiellement le nom de Pierre, et maintenant, ici, dans ce passage-là, il lui explique. Donc c'est quand même impressionnant, s'insistant sur le nom. Et c'est une clé, cette affaire de nom. Parce que le nom qu'il lui impose, d'abord, il est le seul qui a un surnom. Évidemment, il y a Jacques et Jean, qu'on appellera les fils du tonnerre, et on verra, ça a beaucoup moins d'importance. Il lui impose ce surnom, et ce surnom est très particulier, parce que, Képha, en hébreu et en araméen, ça veut dire le rocher. Alors, Petros en grec, Petrus en latin, et c'est un nom qui est inusité en araméen comme surnom, et qui est quasiment inconnu en grec et en latin de l'époque. Après, Petrus se diffusera, mais à l'époque du Christ, il n'y avait pas de Petrus. Bon. Donc, c'est une sorte de création à partir de rien. Et tu t'appelais Simon, qui est un nom parfaitement juif, maintenant, tu t'appelleras Képhas, exactement. Donc, ça, il y a une solennité qui est très importante. Peut-être nous, on le saisit moins, mais pour les sémites, le nom a une importance considérable. Mais, le Cardinal Journet aime bien citer ce fait d'une une anecdote qu'on raconte d'un chef de grande tente qui reçoit un hôte au Moyen-Orient, et il y a sa fille qui est présente, etc. Mais alors on dit, mais il donne pas le nom à l'invité de sa fille, parce que s'il connaissait son nom, il aurait barre sur son cœur. Et c'est très beau. Le nom, c'est vraiment le rayonnement de l'essence. On s'aperçoit quand on appelle quelqu'un, on l'appelle avec son nom de famille, ou monsieur, ou avec le prénom, ou les diminutifs, alors en espagnol et d'autres, il y a des tas de langues où il y a des diminutifs plus rigolos les uns que les autres, et qui montrent quand même une certaine possession, un certain rapport à la personne extrêmement fort, et plus qu'à vraiment la nature de l'être. Hein. Donc Jésus a fait cette opération, bof, il change le nom, donc ça veut dire qu'il va changer les attributs de la personne, bon, qu'efface le rocher. Bon. Ensuite, il agit de telle sorte que Pierre soit reconnu comme spécialement choisi. Mais, l'action de Jésus vis-à-vis des apôtres, même quand il leur a appelé les 12, hein, il y a des actions où il en sélectionne 3, Pierre, Jacques et Jean, les 3 préférés. Et quand ils sont nommés dans les évangiles, c'est toujours Pierre le premier. Quand il prend 3 témoins pour la résurrection de la fille de Jaïr, pour la transfiguration et pour l'agonie de Gethsémani, on dit il prie Pierre, Jacques et Jean. Il est toujours le premier. Toujours. Ensuite, Jésus fait des choses très spectaculaires, enfin à mon avis, c'est qu'il agit avec les biens de Pierre comme si c'était les siens propres. Et, par exemple, la maison de Pierre à Capharnaüm, eh bien, c'est la maison de Jésus. Il va habiter chez lui. Oui. La barque de Pierre, c'est la sienne. On a dans l'évangile, dimanche dernier, sur la forme extraordinaire, on va dire la barque, il monte dans la barque, etc. Puis il y a la tempête, etc. Bon, c'est la barque de Pierre. C'est comme si c'était la sienne, comme si Pierre était un prolongement de son humanité. Hein. Et puis le tribut, qui est encore plus spectaculaire. Hein, est-ce que pour payer le 10 drachmes, mais il dit, va, pêche un poisson, sors-le, bon, etc. Alors on a expliqué un peu ça, parce que les poissons attrapent toutes sortes de choses, dans le lac de Génézaret, mais enfin ça tombait bien, hein, quand on attrape le premier avec tout ce qu'il faut. Et alors ça, c'était important. Non, le fait est historique. Hein. Bon. Dieu peut servir aussi des courants d'eau et des pièces qu'on jette dans le lac. Bon. Alors, et le poisson a attrapé tout, et on sort, et tu lui donneras en tribut pour moi et pour toi. Et tout le monde reste baba. Ça veut dire que Pierre et Jésus, pof, ils payent en même temps. Et d'ailleurs, Jésus dit, le fils, lui, il est libre. L'esclave doit payer, mais le fils est libre. Mais pour ne pas scandaliser les gens, je vais payer. Et il paye avec Pierre, pour montrer que Pierre participe à sa liberté de fils. C'est extrêmement impressionnant. Et il fait ça pour aucun autre. Hein. Bon. La barque, la maison et le tribut. Et ensuite, il s'occupe spécialement de Pierre. Bon, c'est Pierre qui va marcher sur les eaux. Il l'appelle Pierre, sort et vient vers moi, etc. Bon, il le rattrape quand il coule. Il le gronde spécialement. Jésus aime bien gronder Pierre. Voilà. Dans l'abbé Berthaud, j'ai le plaisir de connaître cet homme extraordinaire qui a fondé une congrégation de dominicaines enseignantes. Et l'abbé Berthaud disait, les mamans des prêtres ont le privilège de gronder leurs fils et ça leur fait très plaisir. Parce qu'il dit, on dit que t'es devenu une sorte de savant quand il est revenu docteur de Rome. Sa maman lui dit, on dit que t'es devenu peut-être en breton, parce qu'il était bretonophone, si j'ose dire. Mais on dit que t'es devenu une sorte de savant, je te trouve basseau. Ça faisait beaucoup de plaisir à l'abbé Berthaud. Voilà. Donc ici, voilà. Les mamans, voilà. Certaines ne grondent pas du tout, elles sont un peu trop gâtées. Bon. Il y en a qui aiment bien les gronder. Jésus, il n'arrête pas de le gronder, quoi. Il faut dire qu'il fait des boulettes, hein, non, pas fini. Hein. Alors, la marche, la correction, le reproche à Gethsémani, quand tout le monde roupille, si vous voulez, ils s'endorment tous. Hein. Ça se comprend parce qu'il y a eu vraiment un gros choc, hein. Ils ne comprennent plus rien, quoi. Vraiment, on était à 2 doigts de la victoire vers mardi, mercredi, et jeudi, tout s'effondre, dans la semaine. Ça. Et vraiment, c'est pour ça que Judas, probablement pour ça que Judas traîne. Parce qu'il s'attendait, tout était prêt pour le coup de force, quoi. Enfin, pour les 12 légions d'anges, le coup de force, hein, les 2 à la fois, quoi. Hein, parce qu'en général, dans l'Ancien Testament, c'est combiné. Il y a les anges, et puis il y a aussi mon pilum est plus solide que ton sternum. Hein. Alors, voilà. Enfin, pour ceux qui ont lu le livre, non pas lui qui lit, Astérix. Mais donc, il y a les 2. Mais c'est encore comme ça au Moyen-Orient. Il y a les réserves aussi pour les arguments un peu moins théologiques et un peu plus concrets. Bon. Et c'est comme ça. Ouais. D'ailleurs, toute force n'est pas illégitime. Enfin, je le fais remarquer au passage. La violence est mauvaise, mais la force n'est pas illégitime. C'est au service de. Et il y a des insurrections qui sont légitimes, comme celle des Maccabées ou celle des Chouans, par exemple, pour faire un peu de polémique. Alors, voilà, donc il le gronde, etc. Il le reproche. À Gethsémani, les apôtres sont en train de dormir par tristesse, de effondrer, et il dit, Pierre, pourquoi est-ce que tu dors? Les autres, Jacques et Jean, ils roupillent aussi. Mais c'est Pierre qui se fait engueuler, quoi. C'est vraiment le chouchou, quoi. C'est le chouchou de la maîtresse, mais il prend toutes les... Quelquefois, le chouchou, c'est celui à qui on tire le plus l'oreille, hein. Bon, et puis il accepte que Pierre interroge et réponde en son nom. Souvent, quand il pose une question, c'est Pierre qui s'avance et qui répond. Ou c'est Pierre qui pose une question, vous voyez. Et Jésus a l'air de trouver ça très normal. Et puis, alors, les autres apôtres, et les disciples reconnaissent, au moins après la résurrection, la primauté de Pierre. À un moment donné, ils se disputent quel est le premier, etc. Et tout. Bon, ils se disputent pour les portefeuilles, enfin, les ministres d'État, les finances, enfin, l'armée, ça doit être assez intéressant. Quand on voit comment les Maccabées ont réussi leur coup, hein, bon, il leur a fallu 10, 20, 30 ans, c'était incroyable. Hein. Ils sont partis pratiquement de rien, puis après, ils ont fondé un royaume, et le royaume juif Eretz Israël n'a jamais été aussi grand qu'après la victoire des Maccabées contre les Hélètes. C'est fantastique. Ils avaient une pêche, ces types-là. Et donc, les autres se disaient, il va y avoir du sport. Quoi. Donc, évidemment, ils voulaient être aux premières loges. Hein. Bon. Mais donc, alors, ils se disputaient, mais après la résurrection, personne ne se dispute. C'est marrant, c'est Pierre qui passe le premier. Quand vous allez lire des apôtres, évidemment, l'évangile a été écrit après la résurrection. Et dans la liste des apôtres, vous avez deux invariants. Protos, Petros. Le premier, Pierre. Toujours. Et le dernier, Judas, qui allait le trahir. C'est absolument invariant. Après l'ordre, c'est en désordre. Enfin, plus ou moins. Oui. Mais ça, c'est un indice d'un état qui est reconnu au moment de l'écriture des évangiles, entre 50 et 90, si vous voulez, après Jésus-Christ. Donc, il est toujours nommé en premier. En plus, quand les apôtres, ou Saint-Luc et Saint-Marc rédigent leurs évangiles ou les actes, ils disent Pierre et les onze, Pierre et les apôtres, Pierre et ceux qui étaient avec eux, ce qui est une formule qu'ils emploient également pour le grand prêtre et ses adhérents, qui étaient les Sadducéens. Ce qui veut dire c'est le chef du groupe. C'est tout à fait clair. Hein. Voilà. Et puis, à la résurrection, vous remarquerez aussi qu'il y a un rôle spécial de Pierre. D'abord, quand Jean arrive, donc le premier qui va rentrer dans le tombeau, comme homme, c'est le seul dont le témoignage est valide. Les femmes, c'est gentil, elles racontent des trucs, mais c'est pas valide en droit rabbinique et tout. Et donc, c'est gentil, elles ont fait beaucoup de boulot, mais c'est Pierre qui va rentrer. Et Jean arrête et le laisse rentrer en premier dans la chambre funéraire. C'est très impressionnant, ça. Et puis après, quand les disciples d'Emmaüs reviennent le soir, on avait vu ça quand on a parlé de la résurrection, ils racontent toute leur salade, les autres disent « Arrêtez votre cirque, il est apparu à Pierre ». Donc c'est très bien que vous l'ayez vu aussi, tant mieux, vous avez cassé la croûte avec lui à Emmaüs, on est content, etc. Il a apparu à Pierre, voilà, c'est fini. Boum, ding, c'est fini, voilà. Il a apparu à Pierre. C'est quand même très impressionnant, ça c'est pas des inventions. Hein. Donc Pierre, voilà, Jésus le met en avant, les autres le reconnaissent, et Pierre exerce sa primauté après la résurrection, c'est pas le one-man show, mais c'est impressionnant. Hein. Alors vraiment, s'il y a des gars qui ont trafiqué l'évangile, ils ont vraiment tout trafiqué, quoi. Alors, résurrection, succession de Judas. Bon, Judas est mal fini, comme vous savez. Bon, il a allé se pendre, etc. Bon, il s'est barré, il a fait défection. Il faut élire quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il faut 12. Pourquoi il faut 12 ? Parce que Jésus fonde une nouvelle religion. Du moins, accomplit la religion des 12 tribus d'Israël. Vous siégerez sur 12 trônes, il en faut 12. Ce qui montre que Jésus a vraiment l'intention d'établir quelque chose qui accomplit, mais qui dépasse. Il y en a 12. Il en faut qu'il y en ait 12. Donc, il faut élire quelqu'un. Et quelqu'un qui a tout vu depuis le baptême de Jean, dont on avait parlé ici même, jusqu'à la résurrection pour être témoin. Donc on en sélectionne quelques-uns, et après on tire au sort. Et c'est lui qui dirige tout. Il fait un discours, tout le monde écoute, Pierre a dit, on fait ça. Voilà. Bon, succession de Judas, la Pentecôte. Il y a le boum-boum, et puis là, la grande masse de feu dans la pièce, et 3 ou 4 000 types qui sont dehors, il sort. Alors bon, il parle en langue, il y a des tas de phénomènes très intéressants. Chacun les comprend dans leur propre langue, alors qu'il y avait au moins 25 langues représentées là. Les apôtres parlent sans doute en araméen, ou alors ils font une glossolalie et il y a un miracle d'interprétation pour chacun. Quoi qu'il en soit, il y a des miracles. Mais le premier qui fait le discours intelligible, rapporté par les actes, c'est Saint-Pierre. Et il explique tout. Vous avez fait ça, vous avez crucifié celui que Pilate disait qu'il fallait relâcher. Eh bien, c'est le Christ, le Fils de Dieu, fait de pénitence. Donc il indique, premier discours, premier mode d'emploi, hein, c'est-à-dire qu'il premier la loi d'incorporation, faites pénitence, soyez baptisés. Au temple, c'est le premier qui monte au temple, ça c'est important aussi. Parce que le temple, vous voyez, le temple, je vous ai souvent dit que Jésus n'était pas un Essénien. Les Esséniens, ils sont barrés. À partir de moins 20 avant Jésus-Christ, ils sont partis au désert, ils ont fait leur groupe. D'ailleurs, on ne sait pas trop, c'est très compliqué. Les Esséniens, il y a plusieurs groupes. Bon, hein. Mais c'est des gars qui étaient des radicaux, si vous voulez, des purs, des gens assez sympathiques par beaucoup de côtés. Mais Jean-Baptiste n'était pas un Essénien. Hein. Et Jésus non plus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas schismatiques. Eux, ils ont rompu avec le temple. Parce que c'est vrai que les prêtres étaient assez pourris, ils étaient nommés par les Hérodiens qui étaient des super pourris, mi-juifs, mi-iduméens. Ils étaient techniquement juifs, si vous voulez, parce qu'ils étaient circoncis et qu'ils faisaient mine d'observer la loi. Mais en fait, ils étaient des collabos à bloc, complètement hélènes au point de vue de la mentalité. Et donc, les juifs, on les aimait pas. Et donc, les Esséniens sont barrés. Ils vous êtes illégitimes. Et ils sont coupés, ils ont fait un truc vraiment très, très,
presque manichéen, quoi. La lumière, les ténèbres et tout. Mais Jean-Baptiste et Jésus n'ont pas fait ça. Hein. Bon, ils vont au temple. Jésus a prié au temple, il est monté au temple, et il a dit finalement, le temple, ça va être moi. Eh bien, Saint-Pierre va venir le premier au temple. Il va, le premier miracle au temple va être fait par Saint-Pierre. Le premier discours va être fait par lui. Et quand ils vont être jugés, pour Jean et lui, c'est lui qui va parler le premier. Il est toujours en premier. Mais, d'ailleurs, quand Hérode voudra plaire aux Juifs, après avoir zigouillé Jacques, le cousin de Jésus, Jacques le mineur ou le major, je ne me souviens plus, enfin bon, il le zigouille, et après, il voit que ça plaît aux Juifs, donc on va prendre Pierre qui est plus en lumière. On sait que Pierre est le chef, que Képhas est le chef. Voilà. Bon. Ensuite, il est le premier qui fait les visites apostoliques. C'est-à-dire qu'il va se balader en Samarie. Il est le premier, il apprend que les Samaritains, c'est un cas un peu difficile, les Samaritains, hein, parce que c'était des gens qui avaient la Torah, enfin les cinq premiers livres, hein, de l'Ancien Testament, mais qui étaient très mélangés, parce que c'était un mélange de colons syriens et de juifs. Et donc, voilà, d'ailleurs, ils sont restés, le petit groupe qui reste encore séparé des juifs officiels du temple. Hein. Mais donc, c'était quand même des gens assez proches des juifs, et en même temps, il y avait, comme souvent, entre gens très proches, une barrière très sectaire et très forte. À tel point qu'un juif ne parlait même pas un samaritain. Ce qui étonnera, justement, la fameuse samaritaine. Là. Et bien, quand on s'aperçoit, il y a des missionnaires qui partent assez vite, Philippe et d'autres, le diacre et tout, et quand on voit qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, on annonce ça à Pierre, et c'est Pierre qui vient faire la visite apostolique. Et ensuite, il va aller dans les premières églises qu'il n'a pas fondées. Il va visiter des églises, à Jaffa et ailleurs, qu'il n'a pas fondées lui-même. Ce qui n'est pas vraiment sympa pour l'apôtre qui les a fondées. Hein. Mais ça ne fait aucun problème. Oui, ça montre que Pierre était considéré comme un surintendant qui était partout chez lui. C'est quand même dès le début, hein, c'est très impressionnant. Ça. Bon. Il est le premier envoyé aux païens, vous savez, il y a le fameux miracle, là. Centurion Corneille, il a un rêve, il voit descendre des aliments réputés impurs, etc. Bon, Dieu lui apprend que ces aliments ne sont pas impurs, finalement, bon, au sens profond. Et puis après, il a le centurion qui se convertit, enfin, qui l'appelle, qui a lui-même une révélation. Et à ce moment-là, il le baptise et il fait rentrer le premier des païens dans l'église. Ce qui est extraordinaire, on ne se rend pas compte de ce que c'est, quoi. Enfin, certains se rendent peut-être mieux compte. Ils connaissent certaines coutumes et certaines mœurs, mais c'est hallucinant, un truc pareil. Une fois que c'est un gars d'Oxford qui se fraternise avec un type de Cambridge, mais enfin, pas loin. Pour vous dire, enfin, je suis moins dévoué. Alors, voilà. Bon. Et après, au concile de Jérusalem, lorsqu'il y a le premier concile, donc à Jérusalem, il s'agit de définir des choses assez compliquées, qui sont une clé, d'ailleurs, pour le développement de l'Église. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les Grecs, enfin, c'est-à-dire pour les gens qui ne sont pas juifs de naissance, ne sont pas circoncis, est-ce qu'il faut leur imposer toute la loi de Moïse? Est-ce qu'il faut les obliger à être circoncis? Et est-ce qu'il faut leur imposer la totalité de la loi de Moïse? Alors, il y a des tas de bagarres qui se prolongeront très longtemps et qui auront beaucoup de conséquences. Mais finalement, le point de vue de Paul va triompher, à savoir qu'il faut imposer le moins de choses possible. Et que la loi n'est pas nécessaire, l'observance préalable de la loi n'est pas nécessaire pour arriver au salut du Christ. Nous, ça nous paraît clair maintenant parce que, voilà, c'est dans le bouquin. Hein. Mais au début... Les apôtres ont été éclairés. Bien, le premier qui a donné la solution, s'est levé, tout le monde l'a écouté, c'est Pierre. Et à la fin, il conclut, il a semblé au Saint-Esprit et à nous qu'on n'impose pas la circoncision, simplement on impose un minimum pour faciliter la transition. Ce qui était une révolution absolument extraordinaire. Sinon, l'Église serait restée un club, si vous voulez. Parce qu'observer la Torah, bonjour les gars, j'aime bien. Il y a des règles religieuses qui sont difficiles, mais... Et avec la Torah, c'est presque encore plus grand. Si vous l'observez vraiment, hein, c'est impressionnant. Donc vraiment, l'universalisme est venu avec... C'est Paul et Pierre qui ont raison. Quoi. Il fallait imposer le minimum. Quoi. Tout ce qui était contraire à l'ordre naturel, bon, on l'interdisait, mais le reste, voilà. Donc c'est lui qui parle le premier. Donc il a exercé sa primauté. Donc vous voyez, il y a un contexte dans l'Évangile qui montre que non seulement nous avons Matthieu 16, 18, 19, ce texte capital, mais nous avons tout un ensemble qui montre que Pierre est prédisposé pour être la figure de proue. Voilà. Alors maintenant, regardons directement le texte, hein, ou du moins revenons au texte lui-même, après avoir vu que Pierre est un homme à part des autres. On a tiré quelques arguments du fait que Matthieu, que Marc et Luc, vous savez qu'il y a trois évangélistes qui sont parallèles. Matthieu, le premier... Marc le second et Luc le troisième, chacun ayant son tempérament. Matthieu écrit davantage pour les Hébreux, donc il fait souvent référence aux prophéties.
Marc écrit sous la dictée de Pierre à Rome, donc il pense à la mentalité des Romains. Et Luc, c'est un médecin, un intello, pas un romantique, mais bon, Luc, c'est un grec, médecin grec. Et c'est pas un apôtre. Bon, le troisième évangéliste, l'évangile de la prière de la miséricorde. Donc c'est les synoptiques, parce que quand on les met ensemble, synopsis, on voit qu'ils parlent de la même chose et il y a les mêmes épisodes qui se suivent. Et alors dans l'épisode parallèle à celui de Saint Matthieu, confession de Césarée, il n'y a pas le passage que je viens de vous lire. On dit ah, il n'y a pas ce passage, donc c'est faux, puisque c'est pas dans les synoptiques, machin bidule, ça ne peut pas être vrai. Bon alors calmos, hein. Il y a plein de passages qui sont considérés comme parfaitement authentiques, qui sont que dans l'un des trois synoptiques. Donc pourquoi est-ce qu'on s'excite contre ce passage-là? Parce qu'ils ne racontent pas tous exactement la même chose. Chacun a son film, si vous voulez, c'est comme un truc en 3D, mais en 3D qui se déroule dans le temps, quoi. Chacun prend son film, et au total, ça fait l'évangile selon, mais c'est toujours l'évangile. C'est très, très curieux, l'évangile, hein. C'est pas le Coran, hein. C'est des hommes avec leur tempérament qui sont saisis par le Saint-Esprit, donc ce qu'ils nous disent est vrai, mais leur tempérament reste là. Hein, il suffit de les lire, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas la même mentalité. Il y en a un qui filme la scène, il y en a un qui parle le moins possible, c'est Marc. Hein, il est toujours très couvert. Hein. Il y en a un qui met tout en scène de façon très majestueuse avec des tas de sémitismes, c'est Matthieu, etc. Et puis Luc, alors Luc, ça vous coule dans le cœur, c'est très beau. Enfin, il faut lire. C'est pas défendu de lire l'évangile. Hein. C'est pas ça aux protestants. Hein. Bon. Je dis ça parce que quelquefois, les cathos sont un peu. Vu qu'ils savent leur catéchisme, ils disent bon, mais l'évangile, je ça pour les curtains. C'est trop compliqué. Ou pour les chachas, à la limite, si je suis traduit, mais moi, je lis pas l'évangile. Et bien, c'est une grande faute. Il faut d'abord faire le catéchisme, d'abord savoir question-réponse par cœur, et après, il faut lire l'évangile, et après, l'Ancien Testament. Enfin, c'est mon opinion, je la partage évidemment, parce que je suis. Et ça marche, hein, ça marche. Parce que quand vous avez la question-réponse, quand vous lisez l'évangile, vous avez une structure, vous voyez, qui vous permet de. Vous avez la colonne vertébrale qui vous permet de mettre les choses en place sans partir dans toutes les directions. Quoi. Voilà. Enfin, il y a d'autres pédagogies, mais celle-là est bonne. Alors, le silence des autres synoptiques ne prouve absolument rien. Parce que la promesse du primat, exiger qu'elle soit présente, c'est un anachronisme. Pourquoi elle n'a pas besoin d'être présente? Parce que c'était reçu. Vous voyez, on oublie que quand les apôtres ont écrit, quand les évangélistes ont écrit, ben l'Église fonctionnait. Sinon, ils n'auraient même pas pu écrire. Donc ils voyaient Jean, ils voyaient Jacques, ils discutaient, ils s'envoyaient des messagers, ils profitaient des postes romaines. Enfin, ils n'avaient pas l'exemption gratuité comme après Constantin, les évêques ont pu se balader comme ils voulaient. Ils avaient le privilège de la poste romaine, donc ils allaient d'un bout à l'autre de l'Empire à toute vitesse, comme s'ils étaient un messager de l'empereur. Bon. Mais enfin, ça allait quand même vite, hein. C'est incroyable. La circulation entre Damas et Rome a une vitesse hallucinante. Hein. Puis tout le bassin méditerranéen, ça circulait. Alors donc, les nouvelles circulaient, on voyait, il y avait Pierre, il y avait Jacques, etc. Ils faisaient ci, ils faisaient ça, ils échangeaient des nouvelles, ils écrivaient des lettres, et tout le monde savait qu'il y avait les apôtres, des gens qui avaient vu le Seigneur, des témoins, les 500 qui étaient présents sur la colline de Galilée. Et puis Paul, qui avait eu son truc spécial alors qu'il était un emmerdeur fini, qui est devenu un super bonhomme, un turbo apôtre au carré, etc. Tout ça, on se racontait ça. C'était le téléphone arabe ou araméen et ça fonctionnait très bien. Donc, il n'y avait pas besoin de dire Pierre, mais tout le monde savait que Pierre était le patron. Puisque même Paul, ben, je n'ai pas l'anarchie du groupe, c'était pas seulement anarchiste, Paul. Paul, c'est un super intello. Hein. C'est un intello qui était à une université qui était une des plus fortes du monde. Tarse était plus fort qu'Athènes à l'époque. Hein. Faut oublier, Alexandrie battait déjà un peu d'elle. Non, mais c'est très intéressant. Paul c'est vraiment un super type. Alors, il part un peu dans tous les sens en même temps, mais quand il écrit. Hein. Mais c'est un type d'une puissance incroyable au point de vue intellectuel. Hein. Il est au confluent de trois civilisations, pratiquement. Bon, et Paul lui-même, qui a vu le Christ de gloire, tout seul, là, nanana, il a tout appris d'un coup, là, avec l'accélération du logiciel, machin et tout, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire 3 ans de retraite en Arabie. Bon, il a reçu tranquillement chez les Arabes qu'il reçoit bien. Bien pépère pour qu'il ne soit pas embêté par les Grecs et par les Juifs. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Je vais à Jérusalem. Et 15 jours de discussion avec Pierre, voilà ce que j'ai. Il se serre la main en signe de communion. Le signe de communion, c'est se serrer la main. C'est dans la révélation. Quand vous serrez la main, c'est ce que dit saint Paul, c'est signe de communion. Moi, je dis ça parce qu'il y a des évêques qui demandent d'en rajouter un peu plus. Ça suffit comme signe de communion. On se serre la main. Voilà. Alors, bon, il serre la main de Pierre, et puis il vérifie que son évangile est bon. Et c'est que quand il a vérifié qu'il commence à attaquer le morceau, à prêcher à droite à gauche dans les synagogues, machin bidule. Donc ça, c'est clair pour tout le monde. Donc un truc que vous voyez fonctionner, c'est vrai, dans un régiment, vous n'avez pas besoin de répéter tout le temps que bon, il y a telle et telle fonction, parce que ouais, ça fonctionne, on sait pas tout, quoi. Pourtant, on répète le règlement, mais quand ça commence à être discuté, on fait une note de service, ah ben vous avez oublié machin bidule. Là, voilà, ça, c'est pareil, il y a un séminaire, il y a un babillard. N'oubliez pas que machin, mais tant que c'est pratiqué, on ne le met pas. parce que ça coule. Donc il n'y a pas besoin de le mettre. Bon. En plus, n'oubliez pas une chose, c'est que le primat de pierre. Maintenant, il y a des tatoueurs qui font des finasseries là-dessus, en particulier certains de nos frères très aimés, d'Orient, dissidents. Pas tous, hein, parce qu'il y a beaucoup d'Orientaux catholiques. Hein, de différents rites. Il y a des Orientaux séparés. Eh bien, jusqu'au XIIe siècle, le primat de pierre était indiscuté chez les Orientaux. Et quand Soloviev s'est converti, il a dit, il a fait ça, il a lu sa. Soloviev était un intellectuel russe de la fin du XIXe. Il a lu sa profession de foi. J'adhère au primat de pierre comme. Alors, il a cité Saint Jean Chrysostome, ça fait, tous les anciens Orientaux adhéraient au primat de pierre. Il y a comment, même Michel Cérulaire a fait des bidules, mais enfin, il a discuté, mais il admettait le principe du primat de pierre. Au XIIe siècle, on a commencé à attaquer. Au XIVe, c'était général. Au XVIe, pratiquement tous les Orientaux dissidents rejettent le primat de juridiction de pierre. Donc, c'est très tardif. Donc, vous rendez compte qu'en l'an 50 ou 100, il n'y a pas besoin d'écrire que c'est Pierre le patron. Hein. Enfin, tout le monde le sait. Bon. En plus, Luc dépend de Marc. On sait maintenant que Luc, le troisième évangile, dépend de Marc ou d'une source commune. Donc, voilà, il a pris ce qu'il trouvait dans Marc. Et Marc est l'évangile de Pierre. L'évangéliste de Pierre, ça c'est intéressant parce que Saint-Pierre est un homme très touchant. Et c'est un homme à la fois, c'est un homme très courageux, mais il est humble. Et on voit que dans son évangile, si vous connaissez Pierre que par l'évangile de Marc, tout ce qui est un peu glorieux, c'est... Par contre, ce qui est contre lui, c'est mis très, très net. Marc écrivait sous la dictée de Pierre. Et donc certains auteurs pensent qu'il a enlevé ce qui était trop à la gloire de Pierre. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, il y en a une autre encore, c'est que Marc a écrit après les persécutions. Matthieu a écrit avant, selon toute vraisemblance. Donc Matthieu écrit les choses, voilà. Mais Marc écrit après les persécutions. Or, n'oublions pas que Saint-Pierre s'était évadé de la prison d'Agrippa Ier, un roi validé par les Romains. À l'époque, tous les rois d'une partie du Proche-Orient ne tenaient leur tétrarchie ou leur royauté du Basileus, du César. Du moins, étaient confirmés par lui. Bon. Oh, il s'était évadé. Un ange l'avait fait sortir. Il était sorti, il s'était barré, etc. Et Agrippa Ier, son prisonnier, ce qui est un peu embêtant quand même, hein, pour un gars qui... Parce que les Romains tenaient bien l'ordre juridique. Donc, Saint Marc, qui écrit pour des Romains, va pas dire, écoutez, il y a un type, hein, il a le royaume, et puis il a les clés. Quoi. Donc, on pense... Enfin, c'est une hypothèse, mais je trouve que c'est assez mignon, comme hypothèse. On dit, il a pas voulu exciter quand même les services spéciaux de l'époque, quoi. Parce que s'il écrivait après Néron, hein, mettez-vous un peu dans l'ambiance, quoi. Enfin, certains qui ont vécu des situations de clandestinité comprennent peut-être ce que je dis, dans les plus anciens. Il y a des choses qu'on dit pas. Parce que ça peut être mal interprété, même si toi, c'est pas... Donc il a pas dit, Pierre, c'est le gars qui a les clés du royaume. C'est-à-dire ça, sous le nom du Basileus, au moment, peu de temps avant que le Basileus se fasse diviniser. Hein. On est à 10 ou 20 ans de l'apothéose des premiers empereurs qui vont utiliser la reconnaissance du droit divin. Bon. Donc voilà.
Je sens qu'il y a la chance.
Bon. Donc voilà, il a par prudence, il n'a pas été ça. D'ailleurs, il y a un argument qui est tout à fait décisif, si on admet d'une part qu'il écrit pour les Romains, donc avec prudence, pour les sémitismes, incompréhensible, royaume des cieux, les clés, etc. Mais il y a un passage intéressant, je vous ai mis des petites colonnes là. Donc, en fait, on dit que Luc n'a pas parlé, mais Luc a dit exactement la même chose. Après la scène, vous savez, Jésus a fait un discours assez étoffé, et il a prédit différentes choses, dont la trahison de Saint-Pierre. Ce qui n'a pas plu beaucoup à Saint-Pierre. Hein. Il a prédit cette trahison. Bon. Et après, il lui a dit, mais ne vous inquiétez pas, Satan va tous vous passer au crime. C'est intéressant, parce que ça vaut pour les apôtres, mais ça vaut aussi un peu pour nous. Hein. Satan nous passe au crime. Hein. Et le crime, bon, il passe des choses, puis un autre qui reste. Hein. Et le crime, ça secoue, hein. Donc vous allez tous passer, vous aurez une épreuve. Alors vous êtes jeune, peut-être vous l'avez déjà eu, vous l'aurez, vous en aurez un certain nombre. Quand on a passé une épreuve, on dit, celle-là, c'est la pire, j'aurai pas pire après. Bon, c'est comme en montagne, on se fait avoir avec les alpins, parce qu'on dit, tiens, je suis au sommet, puis après, moi ça m'est arrivé pendant 4 ans, cette coup-là. Tiens, on est... Ah non, mais il y a un truc qu'on n'avait pas vu, c'est encore... on descend après, c'est l'alpiniste, l'avantage, c'est qu'on descend. Ouais. Mais dans la vie, on ne descend pas toujours. Donc il y a des épreuves. Ils ont une épreuve terrible, c'était la passion. Donc le Satan les a passés au crible. Et Jésus, moi... Alors écoutez, regardez bien comment c'est écrit. Hein. Moi, j'ai prié pour toi. Vous voyez le parallèle avec moi, je te dis. C'est exactement parallèle à Matthieu 16. Moi, j'ai prié pour toi. Et quand Jésus prie pour quelqu'un, ça marche. Bon. Non, mais il est bon. Hein. Il est bon en prière. Moi, je ne suis pas très bon en piété, mais lui, il est bon en prière. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Donc ça éclaire un peu le tuer Pierre. Donc la prière de Jésus fait que la foi de Pierre comme chef de l'Église, ne défaille pas. Et sur cette pierre, donc l'équivalent, c'est toi à ton tour. Attends, parce que là, il y a un passage qui est un peu difficile à traduire. Quand tu seras revenu, bon, après ta chute, si vous voulez, mais ça veut plutôt dire à ton tour, une fois que bon, tu as reçu cette prière, à ton tour, confirme tes frères. Donc c'est Pierre qui va confirmer les autres. C'est lui qui va annoncer validement la résurrection. Donc voyez, l'effet de cette prière de Jésus, c'est la même que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. La foi de Pierre est maintenue et les frères sont confirmés. Donc Luc dit exactement la même chose que Pierre, sous une autre forme, voyez. Mais très très impressionnante. Hein. Mais c'est consolant quand même. Hein. C'est consolant parce que quand les épreuves de l'Église sont... Enfin, une des lectures de l'Apocalypse, c'est de dire l'Apocalypse, c'est le déroulement des épreuves de l'Église. Et elles sont variées, elles sont profondes. Hein. Alors quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, bon, mais les types en sont sortis. Oui, mais quand on était dedans, on se demandait, est-ce qu'on allait en sortir? Le grand schiste, ça a été 38 ans. Hein. 38 ans, il est deux papes, trois papes à un moment donné. Et tout se cassait la figure, faut qu'on était à peu près en même temps que la grande peste, on se demandait quand est-ce qu'on commence à sortir. Et puis la garde 100 ans qui commençait en France, on en est sorti. Mais c'était pas. Oui, donc c'est très très beau, oui, de savoir qu'il y a quand même un endroit où il y a quelque chose qui est inébranlable. C'est la foi de Pierre, et Pierre lui-même. Bon, et maintenant, dernier élément pour le texte qui est très important, c'est le changement de nom. Je reviens là-dessus, parce que c'est bon, une question de philologie, mais qui a une extrême importance. Il y a un nom nouveau, ou un surnom, si vous voulez, qui est donné. Simon s'appelle Képhas. Képhas en araméen, hein, Petros en grec. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que on a dans l'évangile, le nom de Simon va pratiquement disparaître. On appellera toujours Képhas ou Pierre. Donc le premier nom va être complètement... Le nom de Képhas ou Pierre va avoir une importance capitale. Alors que l'autre surnom, fils du tonnerre, Boanerges, Jésus qualifiera Jacques et Jean de fils du tonnerre. Bon, ben voilà, on sait qu'ils avaient la pêche, quoi. Mais on dit Jacques, on dit Jean. Tandis que là, ça reste, oui. Et c'est le signe que pour l'Église primitive, qui appelle toujours Simon, l'appelle toujours Képhas ou Petros, ça a une extrême importance par sa signification. Et la signification de ce nom, quand on regarde bien ce qui s'est passé, est vraiment considérée par les premières décennies de l'Église comme une partie du message. Oui. Il y a quelqu'un qui s'appelait Simon, et le Fils de Dieu a changé son nom, et donc son cœur, hein, et il lui a donné un autre nom, Képhas. Et quand on regarde bien, c'est assez impressionnant, parce que Képhas, en araméen, Képhas, c'est la pierre. Bon. Et Képhas, c'est la pierre avec une terminaison masculine. C'est pierre, mais ça devient un nom. Oui. Alors, pour un sémite, le Matthieu 16, 18 écrit en araméen, c'est évident. Hein, tu es Képhas, et sur cette Képha, je construirai mon église. Et alors, quand ils ont traduit en grec, quand ils ont écrit le traducteur de Matthieu, et puis après toute la tradition apostolique, eh bien, ils ont fait une chose très extraordinaire qu'on n'a fait pour aucun autre nom, ils ont traduit. Alors que d'habitude, on fait que transcrire. Vous voyez, par exemple, quelqu'un s'appelle Jésus. Ça a une signification en hébreu. Jésus, Yahshua, Dieu sauve. Hein. Ou Mariam, ça veut dire princesse, ça. Eh bien, on n'a pas traduit dans un mot grec qui signifiait Dieu sauve. Marie, on n'a pas appelé princesa. Mariam, Marie. Yahshua, Jésus. On a transcrit. Eh bien, là, on ne transcrit pas, on traduit. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, si vous voulez, Képhas, on dit Petros, qui a été fabriqué sur le Petra, qui signifie le rocher en grec, hein, avec une terminaison masculine, Petros, qui était inusité à l'époque. Donc ça paraît un peu subtil, mais je crois que moi ça m'a beaucoup... Je vous remercie de vouloir avoir un café catholique, parce que j'ai appris ça en préparant. Et ça m'a beaucoup frappé. Tout ça, c'est drôlement bien fait. C'est vrai, parce que pourquoi traduire un nom? C'est une traduction. Hein. Petros, c'est une traduction de terminaison masculine, la traduction de Petra, qui est l'équivalent grec de Képhas. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'essence de Pierre, c'est d'être le rocher. Et il faut qu'on s'en souvienne. Voilà. Donc voilà, on a vu cet élément-là. Alors maintenant, ce primat que Pierre a reçu, qu'est-ce que c'est? On va voir la nature de ce primat. Voilà. Alors, donc, le primat est très important. On s'en rend compte d'abord parce que la prérogative qui est promise dans Matthieu 16, 18, hein, et Jésus nous dit, dit à Pierre, tu vas recevoir quelque chose parce que tu as eu une foi qui était complètement surnaturelle. Donc la récompense va être du même ordre. Voyez. Ensuite, cette foi de Pierre, vous voyez, et la prérogative qu'il va recevoir, et la racine de l'indéfectibilité, puisque c'est à cause de ce qu'il va recevoir que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Donc il faut qu'il reçoive quelque chose qui est béton. Hein. Vous voyez un peu le raisonnement. Si les portes de l'enfer ne prévalent pas, c'est qu'il y a un rocher. Donc le rocher est solide. Voilà. En fait, ensuite, la prérogative que reçoit Pierre, c'est pas simplement d'avoir du pif pour trouver la bonne sentence, mais c'est l'effet de la sentence de Pierre atteigne les cieux, c'est-à-dire est ratifié par Dieu. Les cieux, c'est sémitisme pour désigner Dieu. Bon. Et puis elle est solennisée par le changement de nom qu'on vient d'indiquer. Et alors ce changement de nom, il y a deux exemples dans l'Ancien Testament. C'est Abraham changé en Abraham, et puis Jacob changé en Israël. C'est le père du peuple, si vous voulez, avant la loi, et le père du peuple dans l'immédiate proximité de la loi, enfin donc la promesse de Jacob, promesse du Messie, et puis après la loi viendra avec Moïse, et après Simon Képhas dans le règne de la grâce. Donc il y a les trois changements de nom, Abraham, Abraham, Jacob, Israël, Simon Képhas, les trois grands règnes, avant la loi, sous la loi et sous la grâce. Il y a trois types qui sont les pères du peuple et on change leur nom. Mais c'est très intéressant ça. Donc là, c'est vraiment des fondateurs. Hein. Et puis, la prérogative, c'est mon église, je bâtirai mon église sur toi. Or, cette église, c'est une église qui est l'église du Christ, que le Père Céleste vient de révéler à Pierre. Donc, c'est une église universelle. Puisque c'est l'église de celui qui vient d'être révélé à Pierre comme étant le Fils du Dieu vivant. Donc, elle est aussi étendue que le Kaal Yahvé, c'est-à-dire qu'on appelait dans l'Ancien Testament l'assemblée de... l'église de Dieu, l'assemblée de, appelée convoquée par Dieu au Sinaï et puis ensuite pour le monde entier. Donc ça c'est déjà un indice très intéressant. Et alors vous avez, appuyant ces indices-là, vous avez une triple métaphore qui est en fait extrêmement lumineuse. Hein. Surtout que les trois éléments se renforcent. Vous voyez. En fait, on a l'impression que Jésus a fait en sorte qu'on ne puisse pas se tromper. Quand vous allez à Rome, vous voyez autour de la... de l'abside du fond de Saint-Pierre, c'est écrit en grec. Alors, si vous parcourez, vous prenez un peu vos jumelles, mais c'est écrit assez gros. Hein. C'est qu'en grec et en latin, le Matthieu 16, 18. Et franchement, il y a une telle redondance qu'on s'aperçoit que où tout est faux, ou bien c'est Pierre le prince de l'Église. Alors d'abord, il y a une première métaphore qui est le roc. Bon, ça, c'est la plus facile. Le roc, c'est la fondation, si vous voulez. La fondation par rapport à la maison, c'est le principe d'unité. S'il n'y a pas de fondation, ça part en morceaux. Et le principe de stabilité. Donc Pierre est à l'église, ce que la fondation est à la maison. Faites une maison sans fondation, ça se casse la figure. D'ailleurs, c'est expliqué dans une des paraboles. La maison construite sur le sable. Donc c'est clair que Pierre va rester d'une façon permanente, dans sa personne morale, dans ses successeurs, bien sûr, ce que sont les fondations pour une maison. Si tu enlèves les fondations parce qu'on fait une cave et qu'on enlève tout dessus, ben tout s'écroule. Donc c'est vraiment un rôle tout à fait clé. Et justement, c'est indiqué déjà dans l'Ancien Testament, il y a souvent la comparaison du Messie avec une pierre. Pierre angulaire ou pierre de scandale. Mais il y a cette idée de pierre, vous voyez. Dans le psaume 118, Isaïe 28, pardon, et Daniel 2. Et Jésus s'applique cette image-là. Quand il discute avec les pharisiens, il dit « Je suis la pierre qui est prédite dans l'Ancien Testament. Voilà. » Alors ensuite, il y a les clés. Alors les clés sont très importantes à cause de ce symbole judaïque, vous voyez, de l'ouverture de la ville, c'est par les clés. Et les clés, on les portait sur l'épaule, et celui qui portait les clés était vraiment celui qui avait le pouvoir, enfin, l'oikodespotes, le maître de la maison, le majordome, il avait tout le pouvoir du maître de maison, c'est pas simplement d'ouvrir la porte, c'est pas simplement le groom, vous voyez, qui vous ouvre la porte, enfin, trop fort, hein, ou qui appelle l'ascenseur, quoi. Hein, parce que certains voudraient réduire le rôle de Pierre comme ça. Non, c'est vraiment, il gère la maison, si vous voulez, pour le maître. Oui. Et ce symbole des clés est un symbole très très présent dans l'Ancien Testament, qu'on trouve dans l'Ancien Testament et dans les prophéties de l'Apocalypse. Oui. Il a, par exemple, ici dans Apocalypse 3, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, donc c'est Jésus, celui qui a la clé de David. Bon, » la clé de David était prophétisée dans Isaïe, hein, la clé de David, c'est le pouvoir sur la maison de David. Or, la maison de David, son règne n'aura pas de fin, on le lit dans l'incarnation, hein, dans l'évangile de l'Annonciation. Donc, Pierre va recevoir tout le pouvoir de la clé de David. celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne ferme, qui ferme et personne ne voit encore un sémitisme, c'est dire que c'est lui qui est vraiment le patron sur la maison. Donc le Christ donne, reçoit tout le pouvoir sur le royaume de David et le promet à Pierre. Donc deuxième métaphore, l'Europe, première, deuxième les clés, et troisièmement lié et délié. Alors là c'est assez intéressant parce que ça montre un peu la différence entre le christianisme et puis l'islam et puis le judaïsme qui refusait le Christ. C'est lié et délié est une expression rabbinique. C'est pour dire c'est permis, c'est pas permis. Vous voyez ? Donc vous avez une loi, vous avez une tradition, enfin, les rabbins avaient ça, les musulmans ça, il y a le Coran, il y a la Sunna, et puis bon, on demande est-ce que c'est permis, c'est pas permis. Et vous avez deux mots techniques pour dire permis et pas permis. Voilà. Mais c'est un moment, voilà, vous rendez votre sentence par rapport à un truc, voilà, c'est permis. Voilà, c'est, ça, ça, y a, ça, disons, je ne dis pas que ça manque totalement de profondeur doctrinale, mais c'est quand même très par rapport à une loi, par rapport à ce qu'on fait. Tandis que là, c'est beaucoup plus large. L'usage rabbinique est à l'origine du mot, lié et délié, d'accord ? Mais ça dépasse cette chose-là. Parce qu'il s'agit de tout. Tout ce que tu liras, tout ce que tu délieras. Et en plus, sera délié ou lié dans les cieux. Donc, on voit bien que Jésus donne à Pierre une puissance supra-rabbinique. C'est pas, il n'en fait pas seulement un super docteur, mais il en fait quelqu'un qui pénètre les cieux. Et donc, en fait, là, il y a le fondement du magistère. C'est Pierre qui va vraiment nous donner le sens de la révélation de Jésus. Voilà. Donc, lié et délié est encore une très belle métaphore qui montre que le pouvoir a été reçu vraiment par Pierre. Et alors ensuite, avec ces métaphores, nous arrivons donc à l'idée que... voilà, il y en a une ici, là. Voilà. Que le texte de Matthieu 16, 18 est tout à fait topique et convaincant. Et Jésus a promis à Pierre une prérogative de gouvernement. Peut-être le chef, il lit, il délie, il a la clé, etc. Voilà. Et il le promet, mais il lui donne la collation. La collation, ce n'est pas le breakfast, hein, ce n'est pas le colazione des Italiens. La collation, c'est de conférer. Hein, c'est faire sfero tuli latum, c'est vous donner à quelqu'un. Hein. La collation, il donne à. Bon. Donc le primat a été donné à Pierre, c'est marqué dans Jean 21, après la résurrection, lorsque justement il y a une discussion entre Jean et à propos du sort de Jean et de Pierre. Et Pierre est le seul à qui le martyr est prédit explicitement. C'est intéressant ça aussi. Et Jean dit, lui il va rester jusqu'à ce que je vienne. Enfin, il y a quelque chose d'assez mystérieux pour Saint Jean. Mais donc, prédiction du martyr de Pierre, et surtout la triple interrogation. Pour réparer le triple reniement de Pierre, Jésus demande à Pierre s'il l'aime. Et avec des verbes grecs, philein, agapan, sur lesquels on a discuté, mais en fait, c'est les synonymes. On a fait des finasseries là-dessus, mais on a aussi montré, par des lieux parallèles, contre les orthodoxes qui voulaient tirer des nuances employées par philein, agapan, pour dire qu'en définitive, ça voulait dire qu'il ne donnait pas le primat. C'est quand même assez subtil. Eh bien, on a montré par des textes parallèles que Saint Jean emploie l'un ou l'autre pour varier de façon littéraire. De même que paître, diriger, boskein ou poimenein, ces deux verbes grecs qui indiquent s'occuper du troupeau. Donc il donne à paie mes agneaux, paie mes brebis, soit le pasteur de mes brebis, après l'avoir interrogé trois fois, il lui donne la direction de tout son troupeau, sans aucune limite. Et là, on estime que c'est le moment où il a appliqué la promesse de Matthieu 16. Donc c'est très, très intéressant parce que on a une juridiction donnée sur tout le troupeau sans aucune limite d'espace, donc sur le monde entier, et sans aucune limite de temps. Tant qu'il y aura un troupeau, c'est Pierre qui doit le paître. Oui. Alors c'est notre dernier point, parce qu'évidemment ça c'est admis par un certain nombre de gens, y compris quelques protestants, les plus classiques, qui admettent que Pierre dirigeait un peu, tant qu'il était vivant, les choses, mais qu'après il n'y a pas de successeur, oui. De même que les apôtres ont reçu des privilèges propres, qui ne sont pas passés aux évêques, les apôtres étaient infaillibles personnellement. Les évêques ne sont pas infaillibles personnellement, comme on peut parfois le remarquer. Ils sont infaillibles quand ils sont tous ensemble avec le pape. Hein. Bon. Mais par contre, les apôtres l'étaient. Oui, c'est quand même une petite nuance. Hein. Et puis, ils pouvaient fonder des églises où ils voulaient. Enfin, ils s'organisaient pour ne pas se bousculer. Hein, d'accord. Mais donc voilà, ça c'est pas passé aux évêques, ils ont reçu beaucoup de choses, mais pas tout. Est-ce que Pierre, lui, c'est passé, tout est passé à son successeur, dans le primat. Alors on verra la prochaine fois, on va déjà l'indiquer, c'est évidemment l'évêque de Rome. Mais, parce que par des preuves historiques, on peut y arriver, mais déjà on sait qu'il va y en avoir un. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Église est perpétuelle. L'Église est perpétuelle, la hiérarchie est perpétuelle, et le primat est perpétuel. Donc, l'Église doit durer jusqu'à la fin du monde. Ça c'est quand même assez réconfortant, vous voyez. n'y a pas tout d'un coup l'Église qui défaille comme ont cru les donatistes ou au 4e siècle ou les fratricelles au 11e, 12e siècle. C'est tout foireux, ça se casse la gueule, c'est fini, c'est plus l'Église, quoi. Ben, ça marche pas. L'Église peut avoir des moments. Dimanche dernier, il y avait l'évangile de la tempête apaisée. Hein. Et Saint Bède le Vénérable dit, il y a des moments où la tempête est telle que si c'était possible, on croirait que Jésus a quitté la barque pour un temps. Mais moi, je pense que le temps, c'est pas plus de 38 ans. Bon. Ce grand-fils va durer 38 ans. Bon. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça foire, si vous voulez, localement, pas mal, généralement, ça tangue, mais au total, on s'en sort. Quoi. Donc, jamais ça coule. Hein. Enfin, c'est comme ça. D'ailleurs, on verra historiquement, on peut remarquer que l'Église romaine n'a jamais coulé. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que tout ce qui existait il y a 2000 ans, pratiquement, il n'y a plus rien. Enfin, il y a des bouquins, quoi. Mais il n'y a plus de personne morale qui a 2000 ans d'âge. Bon, alors, ça, l'Église jouera jusqu'à la fin du temps. Il suffit de lire l'explication que Jésus donne de la parabole de l'ivraie. Et quand il explique, vous savez, je crois que c'est le dimanche prochain qu'on va lire ça. Il y a donc la bonne semence, et puis après, il y a un salaud qui vient, qui met de la mauvaise truc, etc. Et alors, les apôtres, hein, expliquent-nous ce que c'est que cette affaire-là. Et alors, Jésus explique, c'est moi le semeur. Il y a le démon qui met la pagaille. Et à la fin des temps, les anges viendront, etc. Or, comme la semence, c'est celle du royaume, c'est vrai que le royaume va durer jusqu'à la fin des temps. C'est extrêmement clair, hein, la parabole de l'ivraie. Ça signifie que ça durera jusqu'au jugement dernier, où les anges sépareront le bon des mauvais, en attendant l'ivraie et le bon grain sont mêlés. Bon, ça ressort de cette explication, ça ressort de la finale de saint Matthieu. Allez, faites ci, faites ça, enseignez, baptisez, faites tout, je suis avec vous. S'il est avec nous, ça va marcher. Hein? Si le Christ est avec les apôtres, il restera jusqu'au bout. Voilà. Et puis également, les portes de l'enfer ne provenront pas. Ça, c'est important quand même de se redire dans les périodes un peu difficiles. Donc il y a perpétuité de l'Église, perpétuité de la hiérarchie, puisque Jésus a prévu une église hiérarchique, une église qui fonctionne essentiellement sur les apôtres. Il y a des textes tout à fait explicites dans l'épître à Tite. Il faut que l'évêque soit irréprochable en qualité d'administrateur de la maison de Dieu. Ou dans les actes des apôtres, il y a différents passages. Qui indique dans les épîtres 1er, 2e à Timothée et Actes des Apôtres, chapitre 20, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Donc en fait, celui qui croit à l'Écriture doit logiquement arriver à l'idée qu'il y a des évêques et des diacres. Alors certains protestants épiscopaliens arrivent un peu jusque-là. Mais donc il y a une hiérarchie qui est permanente, et comme cette hiérarchie est structurée par le primat, eh bien ça dure jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que ça se comprend assez bien du point de vue de la nature du primat, c'est de faire l'unité, donc il faut qu'il soit toujours là, sinon l'unité va partir. Hein, et sa finalité, c'est le salut des âmes qui doit être procuré jusqu'à la fin, avec un centre unique d'unité. Hein, et ça se comprend parce que Jésus, après la scène au chapitre 14 à 17 de Saint Jean, surtout 17, a prié pour l'unité. Donc la prière de Jésus est efficace. Et si la prière de Jésus est efficace, il faut qu'il y ait un centre pour équilibrer les choses. Parce que, vous voyez, par exemple, les orthodoxes n'ont jamais réussi, les orthodoxes, ceux qui se disent tels, hein, orthodoxie, on peut les appeler comme ça, si vous voulez, mais les orthodoxes sont catholiques. C'est que, orthodoxie, ça veut dire la droite doctrine, hein, donc on espère qu'on est orthodoxe, nous aussi. Mais disons, les orientaux séparés n'ont jamais réussi à faire un concile pan-orthodoxe. Alors, ils essayent de le faire, là, maintenant, je ne sais pas s'ils vont y arriver, là, parce que qui va le convoquer, vous voyez ? Parce qu'il n'y a plus Constantin, il n'y a plus l'empereur. Ce n'est pas Poutine qui va convoquer, ou Medvedev, ou en tout cas pas Erdogan, hein, qui va. Constantinople, c'est sur le territoire d'Erdogan, là, le Turc, c'est pas lui qui va convoquer. Bon, enfin, je suis un peu méchant, parce que j'ai beaucoup de respect pour les Orientaux. Hein. Mais je veux dire que c'est un problème, quand même. Et certains s'en rendent compte. Moi, j'espère vraiment, comme Benoît XVI aime beaucoup les Orientaux, j'espère qu'il va y avoir des progrès. Il y en a déjà avec les Russes. Parce qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que ce n'est pas simplement l'honneur qu'ils reconnaissent, ils connaissent l'honneur du primat de l'évêque de Rome. Mais il y a besoin d'un centre d'unité. Nous, on a peut-être aussi à un peu profiter, disons, de leur sens de la perpétuité, de leur sens de la contemplation. Les latins changent beaucoup, peut-être un peu trop. Quoi, donc, pour beaucoup de raisons, j'espère qu'il y aura de l'unité, parce que peut-être ça va nous calmer un peu dans les changements. En tout cas, eux, ça leur fera beaucoup de bien, parce qu'ils retrouveront la pierre fondamentale. Donc, il y a une finalité, vous voyez, qui est bon de réaliser cette prière du Christ, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que ça va marcher. Alors, pour terminer, je vais vous lire un texte de Vladimir Soloviev. Enfin, deux textes. Hein. Extrêmement beau. C'est un intellectuel russe de la fin du 19e, qui est un homme très cultivé. Et il y a eu tout un mouvement, hein, fin 19e, début 20e, de Russes et d'Orientaux qui sont intéressés à l'Église romaine, de même que chez les Anglicans, avec Newman. Hein. Donc c'est vraiment des très grands esprits, avec aussi des fantaisies et des hurluberluteries tout à fait russes. Hein, mais, ce qui rajoute du piment, et c'est sympathique. Quoi. Mais il est mort catholique, hein, vraiment un catholique formellement, hein, Vladimir Soloviev. Et ce qui présente un grand héroïsme en milieu russe, de la Russie impériale sous le tsar. Donc, lui, il a un texte qui impressionne beaucoup le cardinal Journet. Et c'est ce que Journet appelle l'argument de prescription de Soloviev. Alors, ça entame un peu sur la conférence décisive du mois de mars. La conférence clé, c'est début mars. Hein. Est-ce que l'Église catholique, la Rome, est la vraie Église chrétienne? Et alors, on entame un peu avec le texte de Soloviev. Argument de prescription. Il dit, voilà, il y a un très très beau texte. Je vais vous lire simplement une partie de ce texte. Soloviev, en réfléchissant sur la nature même de l'Église et avec son approche orientale qui est très mystique, hein, parce que plusieurs orientaux dissidents nous reprochent d'avoir matérialisé et fait tomber les choses dans le juridisme. Alors ils exagèrent, parce qu'on a besoin de juridisme, on a besoin de l'esprit latin, on a besoin de la loi. Mais c'est vrai que c'est bien la dimension contemplative, la dimension mystique. Et vous voyez, pour un oriental, si vous voulez, le tsaretz en russe, chez les Grecs, c'est l'igoumen, est presque plus important que l'évêque. Enfin, ça dépend, mais vous voyez, c'est l'homme ou là-bas, chez les Égyptiens, là-bas, c'est un charismatique, et bon, souvent, il peut être abus aussi, mais juridiquement, mais c'est un homme qui a un don de Dieu. Et c'est important de se rappeler cette dimension-là. Ça nie pas la hiérarchie, on a besoin absolument de la hiérarchie, hein, mais il nous rappelle cette dimension de la dimension essentiellement mystique et contemplative. Je ne sais pas si vous avez raconté cette anecdote que j'ai été en rapport avec un archimandrite grec qui me demandait d'envoyer des exemplaires de ma revue pour convaincre ses confrères justement qu'on pouvait être à la fois latin et contemplatif avec saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire occidental et admettre le primat de la contemplation. Et avec saint Thomas, évidemment, on a ça. Quoi. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que lui, il était orthodoxe, il m'a dit « Je suis orthodoxe, je suis catholique dans mon cœur, mais je ne trouve pas d'évêque qui m'accepte. » Parce qu'il y a des consignes de ne pas accepter les orthodoxes. Bon, ça fait mal quand on entend ça, mais bon, et je pense qu'il a dit... Peut-être qu'il m'a raconté des carambistouilles byzantines, mais enfin, a priori, non, je vais quand même envoyer les revues. Et de toute façon, il m'a dit « Vous savez, je donne ça à mes collègues, et certains de mes collègues orthodoxes sont beaucoup plus catholiques que pas mal de prêtres catholiques sur le péché originel. » Donc, bon, c'est un beau match dans la pagaille, quoi. Mais enfin, c'est quand même l'Église romaine qui est là. Ouais. Bon, on va prendre ça quand même. Alors, donc, Soloviev, vous voyez, avec son il dit, voilà, ben, il y a besoin d'un centre d'unité parce qu'il faut dominer les divisions nationales. Alors ça, c'est très présent, évidemment. Quand on connaît un peu l'Orient, c'est là, le gros problème. Hein. Dominer les divisions nationales, dominer les variations incessantes dans le cours de l'histoire, parce qu'il y a des adaptations nécessaires, mais il faut quand même que ça continue. Et puis, dominer les attaques, les puissances du mal qui sont variées, qui sont nouvelles. Et pour ça, il faut un centre, pas simplement pour que l'Église aille bien, mais pour qu'elle aille tout court. C'est la conclusion de Soloviev. Et il dit, bah, nous savons, on voit que c'est nécessaire, et on voit que le Christ a prévu un truc. Matthieu 16-18, le Christ a prévu le coup. Alors maintenant, regardons ceci. Hein. Nous savons d'un côté que le Christ a prévu cette nécessité, hein, et de l'autre côté, nous voyons que de tous les pouvoirs ecclésiastiques du monde chrétien, il n'y en a qu'un seul et unique qui maintienne perpétuellement et invariablement son caractère central et universel, à savoir, évidemment, l'épiscopat romain. Bon. Alors, le Christ a donc dit à Pierre, tu es Pierre. Alors, Soloviev pose cette question. Il dit, la parole du Christ, je trouve que c'est magnifique ce texte de Soloviev, ne pouvait rester sans effet dans l'histoire chrétienne. Le Christ a dit ça, si le Christ est Dieu, ça marche pas. Bon. Et le principal phénomène de cette histoire, phénomène, la papauté considérée comme phénomène, devrait avoir une cause suffisante dans la parole de Dieu. C'est beau. Comme qu'on nous trouve donc, pour la parole du Christ à Pierre, un effet correspondant autre que la chair de Pierre, à Rome, et qu'on découvre pour cette chair une cause suffisante autre que la promesse faite à Pierre. Ben, vous réfléchirez, c'est extrêmement fort. Parce qu'en effet, il y a un seul groupe sociologiquement admirable, parce que tout le monde est un peu obsédé par le pape, hein, pour lui taper dessus ou pour l'admirer,
c'est quand même quelqu'un, il n'y a pas beaucoup de... Même le Dalai Lama, bon, il est gentil, mais je l'aime bien, hein, mais je veux dire que bon, enfin, d'accord, mais je veux dire, ou le cher d'Al-Azhar, je ne sais pas, ils ne font pas le poids à côté, je suis désolé. Hein. À la fois comme culture, comme rayonnement universel, comme reconnaissance et comme ça rassure quelqu'un qui est humain et intelligent et qui est dans le vrai, ça rassure quand même les gens. Quoi. Bon, il y a donc ce phénomène-là, et puis il y a la parole du Christ. Alors, est-ce qu'il y a une connexion entre les deux? Et Soloviev a conclu, bien évidemment. Et si le Christ est vraiment le Fils de Dieu, sa parole a eu un effet, et historiquement, elle ne peut pas être autre que la papauté romaine. Voilà. Donc, vous réfléchirez à ça dans vos insomnies. Hein, et alors, je termine par de la théologie fiction. Un autre texte de Soloviev, que je trouve aussi très beau. Je croyais que c'était un texte de Benson dans le Maître de la Terre, mais non. C'est dans le court récit sur l'Antéchrist de Soloviev, qui a été réédité par Hatzolem, donc des excellents éditeurs ex-Genevois, a réédité donc le court récit sur l'Antéchrist de Soloviev. Et alors, c'est marrant, parce que c'est bon, l'Antéchrist, oui, si vous lisez le Père Elijah, j'ai fait une recension du Père Elijah d'un auteur hawaïen, un auteur américain, qui fait aussi toute une mise en scène de l'Antéchrist, et c'est souvent le même schéma. L'Antéchrist, c'est un type séduisant, quoi. À la fois, il a le pouvoir, mais c'est une tromperie par une pseudo-vérité. Ça. Alors là, l'Antéchrist de Soloviev convoque tout le monde à un concile à Jérusalem. Et la plupart des gens, la plupart des orthodoxes, la plupart des protestants, la plupart des catholiques, apostasient et passent avec l'Antéchrist. Par contre, Pierre II, le Starès Jean et le professeur Pauli, pour les luthériens, disent non. Alors, ils sont tués par... deux d'entre eux sont tués par l'Antéchrist, par le mage de l'Antéchrist, donc qui est la bête de la mer. Tout ça, c'est fondé, c'est une culture absolument prodigieuse, hein, ce Soloviev, hein, à la fois en latin, en grec, en russe, en français, en allemand, vous allez le voir. Et donc, ils sont tués, par, comme c'est prédit dans l'Apocalypse, Pierre II et Jean le Starète sont tués par un prodige du mage, qui s'agite sous sa chape, et il y a une boule de feu qui les tue. Bon, mais comme dans l'Apocalypse, il ressuscite. Au moment où l'Antéchrist fait son triomphe avec son pseudo-concile mondial, etc., où il nomme ce antipape son chancelier, etc. Et alors, les corps sont exposés, comme c'est dans l'Apocalypse, leurs corps respondent exposés sur la place de Jérusalem, etc., dans la rue des chrétiens qui mènent avec tous les noms de l'époque, hein, parce qu'il avait sûrement été en Terre Sainte, j'imagine, sur le lieu où il la connaissait bien, devant l'Anastasis, la basilique de la résurrection, qu'on les latins appellent le Saint-Sépulcre. Et donc, les chrétiens, les derniers chrétiens, viennent chercher les corps, et les corps, et ils ressuscitent, comme c'est prédit dans l'Apocalypse. Et je vous lis la finale, c'est absolument magnifique. Là. Ça montre que l'œcuménisme, faut de la patience, c'est. Pour Soloviev, c'est à la fin. Voilà, patience, les gars. Mais à peine avait-il reposé les brancards. Bon, parce qu'il vraiment, les brancards pour reprendre les deux corps que l'Antéchrist avait fait exposer, pour un exemple, etc., Pierre II, le pape, et puis le Starès Jean, représentant les Orientaux. Que l'esprit de vie revint dans les morts. Hein. Le Starès Jean, quand il recouvrait la vie, dit « Voyez-vous, mes petits-enfants ?» Alors, c'est des paroles de Saint Jean. Hein. Le Starès Jean, puis Pierre II, là, peut-être qu'il avait eu la pseudo-prophétie de Malachi d'Armac qui dit que le dernier pote, ça parle à la pierre. Hein. Enfin, c'est une pseudo-prophétie, mais elle est marrante aussi, intéressante. Bon. Voyez-vous, mes petits-enfants, ça c'est la première épître de Saint Jean, nous ne nous étions pas séparés. Ils étaient morts tous les deux, tués par l'Antéchrist ou son mage. Hein. Voici donc ce que j'ai à vous dire maintenant, donc il s'adresse aux orthodoxes. L'heure est venue d'exaucer la dernière prière du Christ, qui a demandé que ses disciples fussent un, comme il est un avec le Père. Donc vous voyez, l'aspect mystique, Saint Jean, hein, c'est l'oriental. Pour cette unité du Christ, mes petits-enfants, révérons notre frère bien-aimé Pierre, qu'il pèse dorénavant les brebis du Christ. Allons, mon frère, et il embrassa Pierre. Donc, réunion des orientaux et des occidentaux, des orthodoxes et des catholiques. Alors, le professeur Pauli, donc c'est l'intellectuel le luthérien sympathique, s'approcha. Tu es Petrus, déclara-t-il au pape. C'est l'époque où tout le monde parlait latin. Son initine a appris le latin pour faire ses ordonnances de médecine. Hein. Les Russes résistaient leurs ordonnances de médecine en latin. Tu es Petrus, déclara-t-il au pape. Jetzt ist es ja gründlicher Wesen und außer jedem Zweifel gesetzt. Désormais, c'est solidement prouvé et sans nombre d'un doute. Le gars qui a toute sa vie, ça y est, c'est prouvé. Bon. Et il lui serra vigoureusement la main. Donc il est moins poétique que le grec. Hein, ouais. Tandis qu'il tournait la main gauche au Starets avec ces mots « Zo also fetorschen, nun sind wir ja eins in Christo ». Ainsi donc, petit père, nous voici un en Christ. Ainsi fut réalisée l'unité des églises, ça se passe sur les hauteurs au-dessus d'Iéricho, par une nuit sombre, dans un lieu solitaire et élevé. Merci de votre attention.
Y a-t-il des questions ?
Quels sont les arguments des schismatiques pour appuyer leur position ?
Il y en a toute une série. Et en particulier l'idée que, justement, la promesse ne concernerait que la vie de Pierre. Que ça ne passerait pas au successeur. Et puis, les autres arguments, c'est parce que les positions sont variées. Nous, les catholiques, on a quelquefois du mal à comprendre, parce qu'on projette sur les autres religions la force de l'unité qui est dans la nôtre. Donc on s'imagine, alors chez les musulmans, on projette aussi des unités qu'ils n'ont pas. Chez les protestants, c'est pareil. Et chez les orthodoxes eux-mêmes, il y a quand même beaucoup de nuances. Certains considèrent que l'Église romaine est devenue schismatique. Oui. En particulier en incluant le filioque, enfin hérétique avec le filioque, et schismatique dans le deuxième millénaire. Dans le premier millénaire, le pape n'intervenait que de temps en temps, disent-ils. Après, il est trop intervenu et on est devenu schismatique en niant les légitimes autonomies des patriarcats locaux. Et alors justement, c'est ce que Benoît XVI veut faire tomber en disant la primauté peut s'exercer de manière différente. Ce qui montre d'ailleurs en établissant par exemple des ordinariats pour les anglicans qu'il peut y avoir un mode différent de la primauté pour des groupes particuliers. Et donc que si les orientaux reviennent, ils auront leurs autonomies et le pape interviendra pour les questions de foi et une communion générale. Peut-être moins, il sera peut-être moins présent que chez les latins, mais il n'y a pas besoin qu'il soit non plus. Donc il y a pas mal d'arguments. Et récemment, un de mes pères a une quasi-paroisse dans le sud de notre département, et un de ses amis qui est épousé de lituanienne lui téléphone, là il y a une orthodoxe qui veut parler avec vous, donc ils ont parlé pendant une heure. Alors dans les arguments anti-latins, il y a le fait que tous les ans, dans la nuit de l'Anastasis, dans la nuit de la résurrection, il y a le feu qui allume les sièges, etc. Bon. Alors ça c'est quand même un peu bas de gamme, quoi, mais il y a des arguments plus sérieux. Parce que ce prodige est très discuté, et quand bien même il aurait lieu, bon ben... C'est pour la résurrection, c'est pas forcément pour dire. C'est le patriarche grec orthodoxe qui allume, et soi-disant, c'est un allumage miraculeux. Quoi. Enfin, il y a un peu de tout. Quoi. Mais surtout, je crois que le reproche fondamental, c'est que, surtout chez les Grecs et les Russes, qui sont les plus opposants, c'est les Grecs et les Russes, hein, c'est que nous avons un peu trop rationalisé la religion. Et nous avons oublié l'aspect mystique, et nous évoluons trop, etc. Mais je pense qu'il faut vous dire aussi qu'il y a une énorme méconnaissance de la réalité de ce qu'est l'Église. Parce que quand on va en Orient, vous voyez, c'est souvent les missionnaires latins qui ont rappelé aux Syriaques et aux Arméniens leur propre tradition. Et le respect, il y a eu des excès de latinisation, mais à partir du XVIIe et surtout du XIXe siècle, on a complètement respecté les rites. Et donc il y a un peu des caricatures auxquelles parfois les latins donnent malheureusement raison, mais... En gros, c'est quand même très, très excessif, oui. À tel point que, par exemple, Dostoïevski représente dans la légende du grand inquisiteur, pour eux, l'Église romaine, c'est l'Inquisition. Oui. C'est-à-dire que le juridisme latin, on va forcer les gens à faire des choses et on va tout encadrer et perdre de vue la grande respiration contemplative. Mais je crois que c'est profondément faux, parce que, par exemple, le patriarche, le précédent, ce Barthélemos ou son prédécesseur, en lisant Saint Jean de la Croix, c'est pas ça que le mysticisme, les latins l'ont tout à fait. Donc je crois que nous, ça nous pousse à aller à la pointe de nos choses. Il faut connaître Sainte Catherine de Sienne, Saint Jean de la Croix, nos grands mystiques, pour pouvoir justement répondre aux gens qui sinon vont partir au Mont Athos. Voilà, il faut connaître ces sources qui nous sont communes, quoi. Allez-y, n'hésitez pas. Sur ça ou sur autre chose, hein, ça peut être...
Dans les noms qui ont changé, il y a aussi celui de Paul, qui s'appelait au départ à Saul.
Oui.
Je ne me souviens plus, mais je ne crois pas que ce soit le Christ qui lui ait changé de... J'ai l'impression que c'est la communauté petit à petit qui l'a appelé Paul. Alors c'est vrai que ça... C'est resté, par contre. Paul,
oui, c'est resté, c'est vrai, c'est pas juste, oui. Je creuse là, j'ai pas réfléchi à ça.
D'ailleurs, il y a certainement une signification dans les deux prénoms, mais ça, c'est sémitique. Hein. Je vous en préserve. Le fait que ça ne. En réalité, s'il y a une continuité, c'est assez intéressant. Mais bon, il y a, c'est vrai aussi, Paul qui a changé. Certainement avec la cour du Christ, hein, ça, c'est sûr que c'est. puisque c'est dans le Nouveau Testament.
Thibault, vous dites que les apôtres étaient infaillibles,
oui.
Et vous dites aussi que Pierre s'est rendu célèbre pour ses gaffes, finalement. Oui. Et donc la question, c'est est-ce que c'était pas un choix exprès pour nous montrer que finalement, vous dites souvent que le pape n'est pas infaillible au petit déjeuner comme Pierre arrive à oui. réunir trois fois le Christ. Et
oui.
d'un autre côté,
ils sont devenus infaillibles après la Pentecôte. Hein.
Ah, voilà.
Donc après, il y a quand même moins de gaffe. L'infaillibilité n'est pas impeccabilité. Hein. Donc il peut y avoir des erreurs ou des péchés. Ça se voit dans l'histoire de la papauté. Mais lorsqu'ils explicitent voilà le message du Christ, ben, s'ils se trompent, l'Église va être tout entière trompée. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuances dans la théologie du magistère. Moi, personnellement, je pense actuellement il y a une grande crise de l'infaillibilité parce que les gens ne veulent pas, veulent que le pape exerce le moins possible son infaillibilité. Et moi, je ne vois pas pourquoi. Parce que, personnellement, je pense qu'Humanae Vitae, dans le noyau central, est infaillible. Je suis un des seuls, un des rares théologiens qui le pensent. On est quelques-uns quand même. Hein, mais je ne vois pas comment le pape peut engager un milliard de chrétiens. La plupart des chrétiens sont mariés sur une voie morale difficile. Humanae Vitae, vous voyez, c'est un séquic sur la régulation de naissance, enfin, là, tout ce qui concerne. Et qu'il ait une chance de se tromper. Enfin, ça me paraît. Alors, vraiment, les portes de l'enfer ont prévalu. Parce que ça fait 40 ans que beaucoup de chrétiens ont quitté l'État. Intellectuellement ou moralement l'union avec ce qu'il faut faire parce qu'ils ne veulent pas recevoir ça, donc si ce n'était pas infaillible franchement il y aurait un vrai problème. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'infaillibilité, il ne faut pas l'étendre trop, mais quand le pape parle infailliblement ça nous libère dans le sens de la vérité. Donc les apôtres étaient infaillibles mais pas impeccables.
Alors cette question d'infaillibilité justement c'est moi qui viens un peu du monde d'en face, et puis aussi par les protestants. Peut-être que vous en avez déjà parlé, mais est-ce clairement, alors, donc, c'est le pape ou c'est le collège épiscopal avec le pape
C'est pour expliquer, Mohamed Christophe est passé par les évangélistes, c'est ça?
Oui.
Voilà, donc vous avez eu l'écho protestant. Voilà. Eh bien, attendez, il y a deux sujets, peut-être qu'on fera une année une chose sur l'infaillibilité. Il y a deux sujets de l'infaillibilité. Il y a le pape seul, dans certaines conditions, et le collège apostolique en union avec le pape. Qui habituellement s'exprime dans les conciles, mais qui peut aussi s'exprimer dans un catéchisme qu'ils approuvent tous. Oui. Lorsque tous les évêques enseignent quelque chose comme révélé par le Christ, en communion avec Pierre, ça marche. Oui. Et puis, le pape seul, dans certains cas précis, lorsqu'il s'adresse à l'Église pour lui dire « voilà le message du Christ hein, », et donc de façon très claire et qu'on sache vraiment ce qu'il dit, à ce moment-là, il jouit de l'infaillibilité. Parce qu'il y a deux promesses dans l'Évangile qui s'adresse aux apôtres, vous serez sur les 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël, et une qui s'adresse personnellement à Pierre. Donc c'est assez particulier parce que c'est les deux groupes, c'est le collège en union avec Pierre, et Pierre tout seul qui jouissent de ce privilège. D'ailleurs, au début, dans les 3-4 premiers siècles, il n'y avait pas de concile. Donc on disait, bon, tous les évêques pensent ça, donc ça marche. Quoi. Alors après, les conciles se sont réunis, et ensuite on a reconnu que le pape tout seul pouvait à lui seul faire des définitions dogmatiques. Il n'en abuse pas, hein, mais en fait.
Mais l'argument à ce moment-là qu'on peut avancer, c'est que à quel moment parle-t-il?
Ah ben c'est très précis, vous avez les conditions. Lorsque, comme docteur et pasteur de tous les chrétiens, il s'adresse à toute l'Église hein, pour définir, donc de façon claire, qu'une réalité, qu'une vérité appartient au dépôt révélé. Ou est nécessairement connexe ou relié à ce dépôt révélé. Par exemple, lorsque le pape a défini l'Assomption, Pie XII, j'ai connu un prêtre qui était sur la place Saint-Pierre quand il a défini. Hein, donc, grosse émotion. Il y a eu un enregistrement, on entend la voix de Pie XII. Donc, il y a des tas de considérants. Les considérants ne sont pas infaillibles. Hein. Mais après, il dit, ayant fait tout ça, ayant prié, ayant recueilli le sentiment de tous les évêques, et déjà, rien qu'avec tous les évêques, il a dit, c'est dans la foi catholique. Mais pour plus de solennité, il a dit, nous enseignons, nous définissons et nous déterminons que, deux points, alors après une proposition donc qui est à l'accusatif avec des verbes à l'infinitif, enfin c'est très clair en latin, que la doctrine qui dit que la Vierge Marie est arrivée au cours, à la fin de sa vie terrestre, il n'a pas parlé de la mort, est monté au ciel avec son cœur, son corps, son âme et son corps, est une doctrine divinement révélée. Donc ça, c'est extrêmement clair, et là, on sait que c'est un fait. Mais donc là, les théologiens ont suffisamment de critères pour discerner, on n'en abuse pas. Hein. C'est l'Immaculée Conception, l'Assomption, puis il y a des cas où c'est un peu plus diffus, quoi. Mais là, c'est des cas où c'est tout à fait clair. Parce qu'il s'agit de vérités qui concernent la foi, et qui sont très clairement enseignées par le pasteur suprême, comme étant à l'intérieur de la parole de Jésus, même si on ne l'a pas compris du premier coup. Et c'est ça la différence du catholicisme avec tout le reste, c'est qu'il y a une instance humaine qui peut aller dans la profondeur de la parole du Christ. Lorsque je serai parti, je vous enverrai l'Esprit qui vous conduira vers la vérité tout entière. Et donc, par exemple, quand l'ange dit à Marie, pleine de grâce, eh bien, 1854 ans après, on saura que ça veut dire Immaculée Conception. Et déjà, l'Église avait réfléchi là-dessus. Mais la richesse de cette chose-là, il ne faut pas séparer non plus l'infaillibilité du pape de la contemplation de l'Église. Habituellement, le pape ne définit rien qui n'ait déjà été contemplé par les fidèles, réfléchi par les docteurs, argumenté par l'Écriture, etc. Vous voyez ? Et parce que si on le sépare, on a l'impression d'un espèce de despote qui tout d'un coup a une idée qui lui passe par la tête. Quoi. C'est pas le cas. C'est très beau d'ailleurs, parce que par exemple, l'Immaculée Conception, il y avait en Espagne, il y avait des gens, et ailleurs, mais surtout en Espagne, des gens qui ont fait le vœu du sang, c'est-à-dire qu'ils faisaient le vœu d'être martyr pour la définition de l'Immaculée Conception, à l'époque où c'était encore discuté. Et c'est, je pense, la piété de ces gens-là et d'autres qui ont obtenu finalement la définition par Pinard. Parce que je crois que l'Église a besoin de vérité, et les vérités dont elle a besoin à un moment donné sont découvertes peu à peu. Je crois qu'au XXe siècle, on a eu besoin de toutes les vérités mariales, donc on nous les a données. Oui, mademoiselle. Alors, toutes les encycliques sont infaillibles? Non. L'encyclique, si vous voulez, c'est un document officiel qui est une lettre adressée aux évêques et souvent aux fidèles en plus, hein, dans lequel le pape enseigne. Mais si quelque chose n'est pas infaillible, il peut quand même être authentique, si vous voulez. Le pape peut enseigner, et donc ça donne des directions à la réflexion et à la foi chrétienne. Et donc, sauf si on peut, dans une encyclique, par exemple, il faut distinguer ce qu'on appelle les considérants et les affirmations directes. Les considérants, c'est... prenons un exemple controversé, qui va énerver un certain nombre d'entre vous. C'est la liberté dite religieuse. C'est très mal nommé, et c'est un texte, un des plus mauvais textes du Concile. Mais il est quand même, à mon avis, tout à fait juste dans la pointe au paragraphe 2, paragraphe A. Vous avez tout un ensemble de considérants qui sont, à mon avis, très faibles, qui sont un peu trop personnalistes, qui insistent trop, qui confondent, enfin, qui n'éclaircissent pas les choses. Bon. Et donc, ces considérants ne sont pas infaillibles. Mais vous avez, à un moment donné, le Concile dit, voilà, nous enseignons que la personne humaine a droit à une absence de coercition de la part de l'État, uniquement. C'est ça, la liberté dite religieuse, c'est pas une liberté morale. Hein. C'est que l'État n'a pas le droit de l'empêcher d'agir dans les limites de sa conscience si elle a fait ce qu'il fallait pour l'éclairer. Bon, moi, je pense que ce point-là est un progrès homogène par rapport à la doctrine catholique. Bon, j'ai mis 15 ans à y arriver. Hein, donc, j'ai payé de mon sang ce que je vous dis là actuellement. Hein. Donc, c'est un point qui est, à mon avis, normatif et moi, je pense, infaillible. Mais en tout cas, le reste de l'encyclique ne l'est pas. Il est même tellement mauvais qu'il y a des tas d'interprétations foireuses, des gens qui disent que les religions sont toutes sur le même plan, ceci, cela, etc. Donc ça, c'est pas infaillible, mais la pointe, moi je pense qu'elle est infaillible, et les théologiens qui disent pas qu'elle est infaillible, ils disent qu'elle est authentique, c'est-à-dire que, sauf si vous pouvez démontrer que c'est faux, eh bien vous le recevez en vertu du magistère du pape et de l'Église. Pas simplement comme ça, parce que quand le pape enseigne, si vous voulez, vous avez dans certaines encycliques des grands passages où le pape conclut son raisonnement en disant « voilà la chose », eh bien, si vous ne pouvez pas prouver le contraire avec une encyclique plus forte ou un exemple, ben vous le recevez. C'est ce que font les catholiques. Quand le pape enseigne, ben on reçoit les choses. Et c'est ce que font les évêques et tout. Vous voyez, on a une attitude très différente. Une encyclique, ce n'est pas une copie de théologie, quoi. Qu'on corrige et on met zéro parce que c'est 10 ou voilà. Hein. Mais c'est une chose qui est... Ce que Ratzinger a... C'est d'ailleurs un texte que j'avais cité ici dans le Café Caté et pour lequel il m'a félicité. Donc, le roi n'est pas mon cousin, hein. Le fameux magistère authentique, c'est habituellement comme ça que s'exprime l'Église, c'est dans la logique et la mouvance de la foi. C'est-à-dire que le pape dans Humanae Generis, par exemple, le pape dit, on ne voit pas comment
concilier le péché originel avec le polyphylétisme, c'est-à-dire avec l'idée que les hommes descendraient de plusieurs hommes et de plusieurs femmes. Donc il faut maintenir que tout le genre humain descende d'un homme et d'une femme. C'est typiquement le magistère authentique. Et on doit une adhésion de l'intelligence et de la raison, à moins que vous puissiez prouver par A plus B avec des arguments théologiques et philosophiques que c'est faux. Mais bonjour, hein, parce que c'est vraiment difficile, hein, je peux vous dire. Donc ça, voilà, dans une encyclique, si vous avez un appareil, parce que l'Église est aussi enseignante, elle cherche à faire comprendre les choses, mais la pointe de ce qu'elle enseigne, eh bien, est garantie par une assistance qui fait que c'est au moins la bonne direction de recherche, au moins. Et dans les cas maximum, c'est infailliblement vrai. Parce que les gens voudraient, si vous voulez, qu'il y ait une sorte d'automatisme, si vous voulez, qu'une encyclique ou une bulle et tout soit infaillible. Mais non, je prends un exemple. Par exemple, Boniface VIII a fait une bulle qu'on appelle Unam Sanctam, qui est les rapports de l'Église et de l'État. Alors, il y a tout un baratin là-dedans, complètement augustinien et quasiment théocratique. Enfin, bon, pousse un peu, mais j'aime bien Boniface VIII. Enfin, Dante ne l'aimait pas, il l'a mis en enfer. Un trou de l'enfer. Parce que c'est la bagarre entre l'empereur. Mais ce qui dit dans la bulle, à Unam Sanctam, les considérants sont très théocratiques, à savoir que c'est l'État pratiquement qui fonde, c'est l'Église qui fonde l'État. Enfin, moi, je n'aimais pas ça comme Thomas, ça, c'est pas vrai. L'État existe par la nature des choses. Bon. Mais la conclusion, nous définissons, nous affirmons, etc., en vertu de notre charge de présentation, que toute créature humaine doit être soumise au pontife romain. Ça, c'est un fait. Y compris le roi. Oui. Donc c'est un exemple typique où vous avez une argumentation, c'est comme pour la liberté religieuse, qui est peut-être discutable, mais la conclusion, la pointe, est assistée par le Christ. Et c'est ça qui est intéressant dans l'Église, c'est que tout n'est pas sur le même plan. Il y a des nuances à faire, et évidemment c'est tout un travail. Mais il faut les faire, si vous voulez, parce que sinon on abdique une part de notre religion. Oui. Un pape aurait prononcé une hérésie formelle?
C'est une question,
pas comme pape, non. Il y a eu le cas de... Il y a eu des papes qui ont favorisé l'hérésie. Honorius, par exemple. Il a été tellement équivoque qu'il a favorisé l'hérésie. D'ailleurs, il a été condamné comme tel par des autorités subséquentes. Mais il n'a pas affirmé d'hérésie. Il y a Jean XXII qui a affirmé, comme théologien privé, des choses inexactes sur la vision béatifique. Mais pas comme pape, et il s'est rétracté dans l'article de la comme pape, les protestants ont beaucoup cherché des choses, mais on n'en a pas trouvé. Quand ils parlent comme pape à toute l'Église, il n'y a pas eu d'erreur. Même des gens comme Alexandre Borgia, qui n'était pas très moral par ailleurs, on a dit de lui, son bullaire est impeccable. C'est-à-dire que... C'est impressionnant, d'ailleurs, hein, parce que... Quand même, la papauté, c'est intéressant. Hein, c'est... au fond, Rome a toujours enseigné la vérité sur le Christ. C'est un miracle, quoi. Même si on est pourri, même si le pape a 12 ans, à un moment donné, au 9e siècle, c'est les baronnes romaines ou les comtesses romaines qui mettaient leur chouchou. Un pape de 13 ans, un malade, un type, et puis voilà. Mais personne n'a attaqué la doctrine du Christ. C'est quand même sidérant, quoi, quand on pense à ça. Maintenant, ça se passe quand même mieux. Il y a un conclave, c'est pas la comtesse romaine qui fait la nomination.
Il y a eu des papes à 12 ans, 13 ans.
Oui, ouais, c'est le siècle de fer, hein. C'est avant que les papes réussissent à boucler l'affaire du conclave et que c'est les cardinaux qui nomment. C'était les empereurs, enfin les empereurs. Après les empereurs, ça a été la noblesse romaine. Ah non, mais il y a eu des situations dans l'Église absolument apocalyptiques.
C'était pour la réincarnation.
Le conclave, après tous les il y a une unité, une majorité, une unanimité sur le futur.
Alors pour le conclave, non, les conclaves, il y a des règles qui sont fixées par des lois pontificales. D'ailleurs, chaque pape fait une loi sur le conclave qui suit. Benoît XVI a fait la sienne. Et alors, normalement, vous avez des règles, il y a un certain nombre de tours, et on s'arrange, on tâche de tendre vers l'unanimité. C'est aussi une tradition qu'on a nous chez les dominicains, c'est pour ça que les discussions sont interminables. On ne veut pas, si vous voulez, profiter d'une majorité absolue. On veut vraiment arriver, donc vraiment comprendre les objectants. Donc c'est parce que la vraie démocratie qui est bonne, hein, est extrêmement coûteuse en temps et en énergie mentale. Et donc l'Église, je crois, le conclave, c'est typique, vous voyez. Il y a X tours à deux tiers des voix, quoi. Et Jean-Paul II avait établi qu'au bout du compte,
au bout de 20 tours, on passe à la majorité absolue, et il me semble que Jean Benoît XVI l'a supprimé. Donc il faut vraiment arriver aux deux tiers. Alors il y a des compromis, il y a des choses un peu humaines. Mais quand on dit que le Saint-Esprit choisit le pape, c'est une façon de parler. C'est un type qui est nommé, une fois nommé, il est pape, donc il est bon. Il est bon pour être l'Esprit Saint, mais il a peut-être les yeux verts et il m'énerve, quoi. Il ne faut pas non plus tomber trop, parce qu'aujourd'hui on tombe dans les trucs fusionnels, le pape, alors je suis pris d'amour pour lui ou je ne suis pas pris d'amour. Il y en a qu'on aime, d'autres qu'on aime. Moi j'aime bien le pape actuel, il n'y a pas de doute. Mais je veux dire que... Mais c'est ça qui est beau dans l'Église, c'est que justement, c'est quelque chose qui dépasse, si vous voulez, les... Alors il y a des compromis, c'est vrai, mais maintenant il y a beaucoup moins d'intervention du pouvoir temporel, puisque Saint Pie X a fait supprimer le droit de veto qu'avait encore l'empereur d'Autriche. Donc il n'y a plus aucun droit de veto et l'Église se débrouille toute seule. Donc tout ne va pas de plus en plus mal, quoi. C'est pour vous dire, pour les défaitistes, il y a un grand nombre de défaitistes, peut-être parmi vous, je ne sais pas, quelques-uns, mais là c'est du progrès, quoi. Oui, voilà. Ben, écoutez.
Alors, sur la petite feuille, ceux qui veulent.